Bonsoir, bonsoir, merci d'être là, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, donc Pôle Info Santé qui a été créé il y a 19 ans, le Pôle Info Santé qui, je le répète à chaque fois, est le fruit du partenariat entre le CHU, dont l'une des missions c'est bien sûr l'éducation à la santé, puis l'Espace Mendès France qui nous accueille ce soir, qui est un centre de culture scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, eh bien, c'est de permettre au grand public, donc à vous, à nous, à moi, d'échanger avec des professionnels qui sont là, des professionnels de la santé, hospitaliers et généralistes, qui sont là, donc fidèles au rendez-vous. Nos intervenants vont se présenter dans un instant. Ils vont évidemment vous proposer un exposé sur le sujet, la thématique de ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Tout va bien? Parfait. Lorachi, donc, faut que je... Alors, on va juste monter un tout petit peu plus fort. Je ne vais pas parler trop fort non plus, je suis un peu malade, donc... On va essayer de trouver le juste milieu. Lorachi, donc c'est la thématique de ce soir. Donc j'imagine que vous avez tous et toutes mal au dos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mal au dos? Ah bon, vous me rassurez, ça va. Non, je disais pas chez les médecins et les docteurs, non, je parlais chez les futurs patients ou éventuels patients. Je voulais vous dire qu'à la fin de l'exposé, évidemment, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce rendez-vous, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos spécialistes. Alors attention, évidemment, la facilité, c'est de poser des questions personnelles, évidemment, et vous êtes aussi un peu là pour ça, je le comprends bien. Faites attention de poser votre question de façon générale, dans le sens où les médecins qui sont présents n'ont pas vos dossiers médicaux, évidemment, on va pouvoir faire une analyse, ni vos auscultés. Donc essayez de généraliser un maximum votre question pour qu'elle puisse s'adresser à un maximum de personnes. Je viendrai avec mon micro près de vous, il y aura aussi une assistante qui sera là. En revanche, il existe des personnes timides et je les respecte. Donc pour ces personnes, il y a des feuilles blanches qui sont là, j'imagine que vous avez des stylos. Ces feuilles, je vais les poser, enfin voilà, j'en aurai tout le temps en disposition. Vous me ferez un petit signe, je vous donnerai une feuille. Vous pourrez noter cette question dessus, votre question dessus et me la donner ensuite et je la poserai. Vous avez également entre vos mains donc, des documents qui vont compléter l'information de ce soir. Et parmi ces documents, il y a également quelque chose de très, très important qui est une fiche d'évaluation. En fait, cette fiche, elle ne sert pas à mettre une note. Hein, ce n'est pas les bulletins scolaires. Mais on n'en est pas loin. En fait, elle permet à nous et à l'organisation de répondre, d'être au plus proche de vous et de répondre à un maximum de questions. Sur l'horaire, sur plein de choses, sur la durée, etc., sur ce que vous avez pensé des intervenants, voilà. Donc n'hésitez pas à la remplir, surtout c'est très important pour nous, ça permet d'évaluer un petit peu le travail que l'on fait. Cette conférence, vous l'avez compris, est traduite pour le public sourd, que je salue. Bonsoir. Et donc merci d'être avec nous et surtout d'éteindre vos téléphones portables ou en tout cas de les mettre sur vibreur, s'il vous plaît. Je vous remercie. Lorachi, qu'est-ce que c'est? La prise en charge, la pathologie, la chirurgie, pourquoi on a mal, comment ça se soigne, que vont faire les progrès, est-ce qu'un jour on n'aura plus mal? Enfin bref, voilà tout un tas de questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Bienvenue donc à cette 97e conférence Pôle emploi à l'espace Mendès France. J'ai dit quoi, Pôle emploi? C'est pas mal Pôle emploi comme nom, faudrait qu'on... Pense à un truc, ça peut... Non, pour l'info santé, pardon, évidemment. C'est pour voir ceux qui suivent. Apparemment, il y en a pas mal. Je vais vous présenter... En fait, je suis un peu troublé, pour être honnête avec vous, parce que il y en a un qui vit quelque chose d'assez exceptionnel aujourd'hui. C'est le professeur Pierre Priès qui est avec nous. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Il est chirurgien orthopédiste au CHU de Poitiers. Bon anniversaire, professeur.
Merci.
Merci d'avoir choisi de passer votre soirée avec nous. C'est sympa. On n'a pas pensé au cadeau, mais vous êtes là. Et on est là. Le docteur Philippe Rigoire est également avec nous. Bonsoir, docteur. Vous pouvez l'applaudir aussi. Ce n'est pas son anniversaire, mais bon. Il est neurochirurgien au CHU de Poitiers. Le docteur Géraldine Durand, rhumatologue. Bonsoir, docteur. Et Martine Bataille, qui a été médecin généraliste pendant une bonne vingtaine d'années, qui est médecin coordinateur au sein d'un établissement et qui accueille des personnes cérébro-lésées. Bonsoir. Merci à vous quatre d'avoir répondu présent. Merci à l'organisation, au CHU, au Centre Mendès France. Je vous souhaite une très belle soirée et on va commencer tout de suite avec vous, docteur Philippe Rigoire.
Bonsoir à tous. On va commencer avec un petit peu d'anatomie. Le rachis, qu'est-ce que c'est? Alors le rachis, c'est un terme en général qu'on utilise peu. Finalement, on parle souvent de la colonne vertébrale. Alors la colonne vertébrale, bah, c'est un petit peu comme à cette époque-là, c'est-à-dire c'est un empilement de blocs qui vont de face, quand on le regarde, avoir la forme vraiment de quelque chose de rigide qui nous permet de soutenir la tête, le tronc, et de relier les quatre membres sur une colonne, un empilement donc de vertèbres les unes sur les autres. En fait, si on reprend un petit peu l'histoire de l'évolution, on voit qu'effectivement le terme colonne, c'était quelque chose qui était relativement adapté à l'époque où on ajoutait comme ça au milieu des étangs, des lacs et des océans. Et cette morphologie, qui était quelque chose de très droit, très rectiligne, elle s'est modifiée avec le temps. Pas encore trop chez les animaux qui n'ont pas acquis la station assise ou la station debout. Chez les quadrupèdes, on a encore une colonne, vous voyez, qui est relativement rigide, qui n'a pas de courbure particulière à ce niveau-là. Simplement, on note l'apparition d'une queue et puis une première courbure, une première pliure là, de cette colonne, une première inflexion à la partie distale. Et puis, on note aussi une courbure à la partie proximale, au niveau de ce qui va correspondre à notre cou après, pour que ces animaux puissent, au lieu de regarder le sol, regarder devant eux, et puis aller chasser, aller saisir un fruit sur un arbre, etc., etc. Et puis progressivement, l'évolution continue, et on a des quadrupèdes qui commencent à essayer de se mettre un petit peu debout, ou qui se balancent de branche en branche, et à ce moment-là, on a une première courbure à l'intérieur du tronc, si vous voulez, entre le cou et puis l'extrémité qu'on appelle l'extrémité caudale, et cette première courbure, elle résulte du fait qu'on essaie de se tenir non plus à quatre pattes, mais à deux pattes progressivement. On appuie toujours les deux membres antérieurs sur le sol pour essayer de déambuler comme ça de façon toujours primitive. Mais on a une première courbure comme ça qu'on va appeler une syphose. La syphose, c'est la courbure qui finalement va correspondre plus tard chez l'homme à la région où on a les côtes et à la partie supérieure de notre tronc. C'est une courbure qu'on connaît bien, nous, les hommes, au fur et à mesure de l'évolution du temps dans notre vie, puisque c'est l'endroit où il y a le plus de tassements ostéoporotiques à partir d'un certain âge, quand l'os se fragilise, et on se retrouve à progressivement même marcher en penchant de plus en plus en avant. Ça, c'est lié à ce qu'on appelle la syphose. Qu'est-ce que ça donne quand on essaie de se mettre vraiment debout et puis de marcher non plus à quatre pattes, mais à deux pattes? Eh bien, à ce moment-là, effectivement, on redresse complètement le tronc. On n'appuie plus du tout les membres antérieurs. Ces membres antérieurs deviennent des membres supérieurs. Et c'est les membres inférieurs qui nous permettent de marcher avec une colonne qui commence à être de plus en plus éloignée de ce qu'on appelle une colonne, justement. Et on arrive sur le rachis. C'est-à-dire que, de face, on le voit bien dans les représentations qu'on peut avoir chez certains individus, de face, on a l'impression que la colonne, et même de profil ici, la colonne, c'est quelque chose qui est très droit, très rigide. Effectivement, si on fait un scanner, vous voyez un exemple au niveau du cou, on a toujours cet empilement de vertèbres, comme les empilements d'un bloc sur une colonne antique, mais de profil, même si vous avez l'impression que ce monsieur-là, Mister Univers 1984, a la colonne droite, de profil, en fait, on a des courbures, des vagues, qui sont vraiment très différentes de la notion de base, qu'on appelle colonne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le terme le plus approprié, finalement, ce n'est pas le terme de colonne vertébrale, c'est le terme de rachis. Donc vous avez chez l'homme une première courbure comme ça. Les courbures comme ça, on va les appeler les lordoses. Et les courbures comme ça, on va les appeler les syphoses. Donc là, c'est un rachis qui est couché. Mais vous avez une première courbure au niveau du cou, une lordose. Vous avez ensuite une contre-courbure au niveau du thorax, une syphose. Ensuite, vous avez à nouveau une nouvelle courbure de l'autre côté, une vague positive. C'est à nouveau une lordose, c'est la lordose des lombaires. Et puis vous arrivez à ce qui était la queue chez l'animal, le chien, qui progressivement a perdu au fur et à mesure du temps plein de vertèbres. Toutes les vertèbres de la queue s'agglutinent maintenant sur une toute petite partie qui s'appelle le coccyx. Et le coccyx est à l'extrémité, en fait, de ce qu'on appelle le sacrum. Le sacrum, c'est l'os qui relie le rachis au bassin. Voilà, donc ça c'est la représentation chez l'homme qu'on a de la colonne vertébrale donc de face, et puis finalement du rachis de profil, avec ses courbures, la lordose cervicale, la syphose thoracique, la lordose lombaire, et puis le sacrum. Et ces courbures sont là parce que quelque chose de très important régit le fait qu'on tombe ni en avant ni en arrière, c'est ce qu'on appelle l'équilibre sagittal, c'est-à-dire de profil le fait que notre conduit auditif, l'oreille, est aligné avec le centre du fémur qui vient se connecter au bassin. Et cette région-là, on l'appelle le cotyle. L'équilibre sagittal, c'est la ligne comme un pendule qui est verticale dans la mesure du possible et dans la mesure où on n'a pas de trouble justement de cet équilibre sagittal ou vers l'avant ou vers l'arrière. Donc ce sont les courbures du rachis qui permettent au final d'avoir une ligne droite qui fait qu'on tient debout. Voilà un petit peu au niveau anatomique ce que le rachis représente finalement. Et vous l'avez compris, c'est un empilement osseux avec des vertèbres cervicales, des vertèbres thoraciques, des vertèbres lombaires et puis des vertèbres sacrées qui se sont soudées pour faire ce petit os qui relie donc la colonne au bassin que vous voyez ici. Finalement, d'un point de vue fonctionnel, à quoi ça sert ? Mais le premier rôle, c'est un rôle mécanique. C'est-à-dire que la colonne ou le rachis est là pour soutenir la tête, relier les membres à ce qu'on appelle le tronc. Ça, c'est la fonction mécanique du rachis. La fonction sous-jacente, c'est en fait l'espace qui est aménagé au sein de cette colonne qui est creuse et qui est en fait un canal qui sert de passage pour la structure la plus noble qu'on a dans l'organisme qui est la moelle épinière. La moelle épinière, c'est du système nerveux. C'est du système, ce sont des cellules qui sont extrêmement fragiles, qui ne se régénèrent jamais quand elles sont endommagées, contrairement à des cellules du foie. Vous faites une hépatite au Sénégal parce que vous avez mangé quelque chose qui vous donne ce virus-là. Vous détruisez 95% de votre foie avec cette hépatite. Avec les 5% qui restent, vous arrivez à refaire un foie tout neuf. Le tissu nerveux, ce n'est pas pareil. Quand malheureusement on a un accident vasculaire au niveau du cerveau, quand malheureusement on plonge dans un endroit où il y a trop peu d'eau et qu'on se fait une fracture avec une contusion de la moelle épinière, et bien malheureusement ce sont des choses qui récupèrent très difficilement et qui, quand elles récupèrent, ne récupèrent pas parce que du tissu nerveux s'est reconstitué. Ça récupère parce que d'autres petites connexions vont à droite et à gauche essayer de refaire des circuits. Le système nerveux est tellement fragile que dame nature, elle nous a pourvu d'une enveloppe osseuse très importante, comme une carapace d'un homard, qui engaine cette moelle épinière et qui permet de protéger cette moelle épinière. Ça, c'est l'autre rôle du rachis, qui est cette carapace qui protège la moelle épinière en son cœur. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous donner un petit aperçu anatomique. Donc là, vous voyez une coupe, hein, comme si on avait fait une tranche ici, et on regarde ici le corps de la vertèbre. Ensuite, on a des parties osseuses qui sont en arrière. L'avant est ici, l'arrière est ici. Ça, c'est ce qu'on sent quand on palpe son cou. Ce sont les épineuses. Et les épineuses sont reliées aux corps vertébraux avec des massifs sur le côté qui s'appellent les massifs articulaires qui permettent d'empiler les vertèbres les unes sur les autres. Le rachis, c'est l'empilement des vertèbres les unes sur les autres. Et au milieu de tout ça, vous avez un canal. Et dans ce canal, vous avez la moelle épinière qui, à chaque étage, va dégager des racines nerveuses qui vont ensuite s'assembler et constituer des nerfs pour les bras et pour les jambes. Voilà. Donc après ces quelques notions anatomiques, je vais laisser la parole au docteur Géraldine Durand, qui est rhumatologue, et elle va vous présenter quelles sont les pathologies et les signes cliniques qui peuvent se rapporter au problème de la colonne vertébrale pour essayer que vous puissiez mettre un terme adapté à chaque symptôme que vous pouvez ressentir. Le mal de dos, la sciatique, la hernie, qu'est-ce que c'est tout ça, comment on peut mettre ça ensemble et comment on peut s'en occuper au niveau médical. Voilà, donc je laisse la parole à Géraldine Durand.
Donc merci Philippe pour ces rappels d'anatomie. Donc maintenant vous savez tout sur votre rachis colonne vertébrale, ce qui va nous aider pour interpréter les examens qu'on a pu vous faire éventuellement. Donc moi je vais vous présenter la prise en charge médicale de ces problèmes de lombalgie qui vont du diagnostic à également la prise en charge, les différents traitements qu'on peut vous proposer. A priori, si vous êtes là, c'est que vous avez été sensibilisé à ce problème lombaire. Ce n'est pas tellement étonnant parce qu'en fait, on estime quelques chiffres, c'est qu'environ 80% des Français auront au moins une fois mal au dos dans leur vie. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Enfin, pour nous, en tout cas, oui, peut-être. La bonne, c'est qu'on estime qu'en dans environ 50% des cas, l'épisode est résolutif en une semaine. Et on dit qu'à peu près 9 cas sur 90% en un mois. Alors c'est résolutif, ça ne veut pas dire que ça va partir du jour au lendemain. Il y a à peu près, on estime, 6 millions de consultations par an en médecine générale. C'est à peu près 1,6% des dépenses de santé. C'est des chiffres qui sont stables dans le temps. Alors, de quoi quelques définitions. Alors, on va parler, la première chose, c'est qu'on essaie de localiser la douleur. Donc, la lombalgie, c'est un symptôme, c'est une douleur, et cette douleur, c'est quelle que soit la cause. On va parler d'une lombalgie sur une fracture, d'une lombalgie sur une infection, d'une lombalgie sur une arthrose. Elle est ressentie donc dans la partie basse de la colonne, au niveau de ses vertèbres lombaires, les 5 dernières vertèbres lombaires. Si la douleur est plus haut située au niveau du rachis dorsal, on parlera de dorsalgie et de cervicalgie si on est au niveau du cou. La deuxième notion, c'est que cette douleur peut soit rester au niveau de la colonne, soit descendre, donc irradier. Et on parlera de névralgie cervico-brachiale si ça va du cou vers les bras, de lombo-sciatico-cruralgie si ça part des douleurs lombaires et que ça va vers les jambes. Et là, en fait, c'est en fonction de la topographie. On va vous demander, généralement, on essaye de savoir exactement où passe la douleur, si possible, parce que ça va nous renseigner exactement sur là où les racines nerveuses qui sont incriminées. Et en fonction de cela, si vous avez gardé en tête le schéma d'anatomie avec ces racines qui sortent au niveau de la colonne, on va essayer de voir finalement à quel étage le problème se situe en fonction finalement de la topographie de l'endroit où passent vos douleurs. Donc ça, c'est important parce qu'on va se retrouver avec des examens complémentaires, avec des images. Et vraiment, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une bonne corrélation entre les douleurs et ce que vont montrer éventuellement les examens. Rapidement, il y a une notion de temps, c'est-à-dire que si ça fait moins de 7 jours, on parlera d'un épisode aigu et on est passé à un épisode chronique à plus de 3 mois. Alors, la première chose, quand on consulte pour un problème de douleur, que vous voyez un médecin généraliste, vous aurez l'expérience après, ou un rhumatologue, ou un chirurgien, c'est qu'on va vous demander de raconter votre douleur pour essayer d'arriver au diagnostic et surtout de voir si on fait des examens complémentaires d'emblée et d'écarter une maladie potentiellement grave. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on va vous demander de façon répétée qui sont pour nous en fait des signaux d'alerte où quand on va... Il y a certains signes, donc je vais vous dire, où il y a des gyrophares qui vont s'allumer et là, on va être beaucoup plus attentif. Enfin, on l'est tout autant autrement, mais encore plus. Donc, on va essayer de caractériser la douleur, savoir comment la douleur est survenue. Est-ce que c'est la première fois ou finalement, est-ce que c'est des épisodes qui se répètent? Surtout, est-ce qu'elle vous réveille la nuit ou finalement, est-ce que c'est quand vous allez marcher, au bout d'un certain temps, que la douleur apparaît, vous vous reposez et la douleur diminue? Est-ce qu'il y a d'autres signes, de la fièvre, une fatigue ou une perte de poids? Donc on se retrouve un peu vers ces deux cas de figure. Soit il y a des réveils la nuit, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas forcément l'effort qui va augmenter les douleurs. Éventuellement, un épisode de fièvre, une perte de poids qui n'est pas expliquée par un nouveau régime, une chute. Auquel cas, en fait, on va évoquer un problème lombaire qui est symptomatique d'une maladie spécifique et qui va nécessiter une prise en charge vraiment spécifique de cette maladie-là. Donc ça peut être une fracture ou un tassement. Le terme de un tassement vertébral, c'est une fracture. C'est la même chose, il y a parfois une distinguo. Là, un tassement de disque, c'est une usure au niveau d'un disque. Mais un tassement de vertèbre, c'est une fracture, comme peut l'être une fracture au niveau du poignet ou du col fémoral, par exemple, qui nécessite donc une prise en charge spécifique. Mais au niveau de la colonne, les douleurs dans le dos peuvent également révéler une infection. Il y a certains rhumatismes spécifiques qu'on appelle les spondyloarthropathies, qui sont des maladies qui touchent plutôt le sujet jeune et qui donnent des douleurs vraiment la nuit, donc qui ont des critères diagnostiques bien définis. Et puis, il y a des pathologies cancéreuses qui peuvent également toucher la colonne vertébrale. Tout ça va être révélé par le même symptôme, au départ, une douleur dans le dos, et c'est donc l'interrogatoire et les examens qui vont viser à écarter ça. Donc bien sûr, si on est dans ces cas-là, on va faire des examens complémentaires d'emblée, soit un bilan sanguin, des radios, un scanner ou une IRM. Si on n'a pas ces orientations-là, c'est-à-dire si on est dans un problème mécanique, une douleur mécanique, ça va être une douleur qui va être aggravée par les efforts et finalement qui ne va pas réveiller la nuit. Elle apparaît après un périmètre, après une marche qui est plus ou moins prolongée, et le repos va l'améliorer s'il n'y a pas de fièvre, s'il n'y a pas de perte de poids. Donc s'il n'y a pas ces signaux d'alerte, à ce moment-là, on va s'orienter vers un problème mécanique. Et ça peut être un problème de disque, donc une hernie, une protrusion, une arthrose qui va rétrécir le canal rachidien, éventuellement une scoliose. Et dans ces cas-là, ce n'est pas qu'il ne faut pas faire d'examens complémentaires, mais on ne va pas forcément les faire d'emblée dans les trois jours qui suivent le début des douleurs. On va se donner un petit peu de temps. Alors, ces examens, il y a des recommandations et on va donc cibler ce qu'on fait. Donc là, on est dans le cadre où on a écarté un problème d'inflammation et je vais vous centrer maintenant sur le problème mécanique qui est plus le sujet de ce soir. Les autres maladies, c'était vraiment pour distinguer au départ pourquoi on fait plus ou moins vite des examens. Au bout de 7 à 10 jours, on va vérifier cette hypothèse avec initialement donc un bilan sanguin. Donc sur le bilan sanguin, on va faire en général une recherche d'inflammation, c'est le dosage de la vitesse de sédimentation et de la CRP, et on va également vérifier qu'il y a une bonne tolérance au niveau des traitements, donc c'est au niveau des reins, c'est la créatinine et du foie. Et il y a des indications à faire des radiographies standards. Alors la radiographie, ça semble pas l'examen le plus moderne qui soit, mais ça a encore tout son intérêt, et vous verrez que même si vous avez eu d'autres examens, scanner ou IRM, eh bien on refait quand même ces examens-là. Alors, vous avez ici des clichés, hein, donc ça se présente comme ça, une radio de face. Ici, vous avez la radio de face et la radio de profil, où vous retrouvez schématiquement le schéma de l'anatomie, donc cet empilement de vertèbres les unes sur les autres. Donc, ce qui est important de voir, c'est que on peut dépister. Sur ces radios de face, vous voyez qu'ici, vous avez une déformation au niveau de la colonne. Et là, on va très vite aller sur un premier diagnostic, sur cet examen qui est simple et facile d'accès. Et puis, on peut également détecter éventuellement une fracture de vertèbre, comme c'est le cas ici, chez cette patiente qui n'est pas forcément tombée par ailleurs. Alors, si on est bien dans le cadre d'un problème mécanique, en fait, après un certain nombre de plusieurs semaines d'évolution, on peut discuter donc une autre imagerie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'imagerie en coupe. Donc, on a le choix entre deux examens, le scanner ou l'IRM. Je ne vous parle pas d'échographie, parce que ce n'est pas un examen qui a d'intérêt au niveau de la colonne. Les deux examens, ça dépend un petit peu de ce qu'on cherche. Et parfois, on fait un scanner et on complète par une IRM, et inversement. Les deux choses, c'est que donc vous avez en haut donc un scanner, l'IRM en bas, chacun ont globalement leurs contre-indications. Le scanner, donc, c'est une imagerie avec des rayons X, et en fait, on fait des coupes, on coupe sagittalement, et après, on fait comme des tranches successives au niveau de la colonne, et on peut regarder dans les plusieurs plans de l'espace votre colonne plus précisément. L'IRM, donc, c'est un tube, c'est une imagerie par résonance magnétique. Il ne faut pas trop être claustrophobe si possible, parce que l'anneau c'est un scanner, l'IRM c'est plutôt un tube, alors c'est ouvert de chaque côté, hein, mais c'est un petit peu à l'étroit, quoi. Alors l'intérêt, donc vous avez, si vous reprenez les schémas, vous retrouvez ces images en coupe, hein, donc ces vertèbres là qui sont empilées avec les disques entre chaque examen. Le scanner montre très bien l'os. Sur l'IRM, on va voir une notion d'inflammation et de partimol qu'on ne voit pas sur l'IRM. Donc si on veut vraiment voir le rétrécissement, voir ce qui sert, on va faire un scanner, si on veut bien étudier l'os, et si on veut voir la composante plus inflammatoire, on va faire une IRM, et on est parfois très souvent amené maintenant à faire d'ailleurs les deux examens. Pour ce qui est d'un problème de pathologie discale, donc une éventuelle hernie, finalement le scanner et l'IRM voient ces deux anomalies. Donc vous retrouvez ici la coupe, donc ici en fait on regarde sur le côté, et puis après on fait des coupes successives et on regarde par-dessous. Donc là vous avez l'arrière, ce que vous avez palpé au niveau du cou, les muscles, et on voit les racines nerveuses qui sont coupées et on voit en fait la hernie qui vient comprimer. Le problème avec ces examens, c'est que, un, les examens peuvent être normaux, bien qu'il y ait une douleur. Ça reste des examens qui sont très sensibles, mais qui ont quand même leurs limites. Déjà, c'est des examens qui sont faits allongés, donc mais en fait, on ne voit pas, on voit surtout les composantes mécaniques qui coincent le nerf. Et quand vous allez avoir un compte-rendu de scanner ou d'IRM, il y a forcément une description de beaucoup de choses. Donc, en général, c'est assez long. Et après, la question, c'est de pouvoir interpréter ce qu'il y a, les douleurs, et ce qu'on voit, parce qu'on sait que la même anomalie peut être vue chez quelqu'un qui n'a pas mal. Certaines, en tout cas pas toutes, mais il y a certaines anomalies, comme ce qu'on appelle une discopathie, par exemple une usure au niveau d'un disque, qui va être douloureuse chez quelqu'un et qui ne va pas l'être chez l'autre. Et donc, on va avoir toute une description d'anomalie, entre guillemets. Et la question va être de voir est-ce que finalement ces anomalies correspondent bien aux douleurs. Donc on essaye comme ça d'arriver un petit peu à, si possible, à un diagnostic. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas on essaye. Dans la prise en charge médicamenteuse, donc il y a différents traitements qui sont possibles. Là encore, on fait souvent des associations et on ne va pas utiliser forcément au même moment. Bien sûr qu'on utilise les antalgiques, donc un antidouleur, avec plusieurs stades dans les antidouleurs, le premier étant le paracétamol, donc tout ce qui est doliprane et feralgan, et puis qui peuvent aller jusqu'au traitement par morphine. Il y a également les anti-inflammatoires à la cortisone. Là, c'est généralement pour des cures courtes, ce n'est pas des traitements qu'on va donner au long cours, parce que c'est des médicaments qui vont avoir des effets secondaires. On peut être amené à vous prescrire des antiépileptiques quand il y a certaines composantes de la douleur un peu plus spécifiques, donc on parlera, je pense, un petit peu plus tard, et éventuellement des contractants musculaires. Alors, dans la prise en charge médicale, il y a également les infiltrations. Alors, les infiltrations au niveau de la colonne, ce qu'il faut voir, c'est que c'est avant tout un traitement symptomatique, c'est-à-dire le but est d'essayer de diminuer une douleur qui est résistante, et donc ça reste plutôt en deuxième intention. Ça ne prévient pas d'une évolution au niveau de la colonne, c'est vraiment pour essayer de soulager. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs sites d'injection, si bien que ce n'est pas parce que vous avez eu une infiltration que ça n'a pas marché, entre guillemets, qu'on ne peut pas réessayer en essayant de cibler une zone différente. Ça se fait alors avec ou sans contrôle radiologique. Dans tous les cas, c'est de la cortisone qui est injectée, mais il n'y a pas les effets secondaires de la prise de corticoïdes par la bouche, donc il n'y a pas besoin de faire de régime ou de choses comme ça après une infiltration cortisonique. Il faut faire attention quand même s'il y a du diabète, hein, parce que ça peut déséquilibrer un petit peu. Bien sûr, on réserve ça aux problèmes mécaniques, c'est-à-dire qu'il faut avoir écarté avant tout ce qui est inflammatoire. C'est contre-indiqué s'il y a des anticoagulants ou s'il y a une infection qui est en cours. L'efficacité, je dirais que c'est ça pour but de diminuer une douleur. Donc, on peut répéter le geste. On dit qu'en moyenne, il ne faut pas en faire plus de 2 à 3 par an sur le même site. Il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est que si on est obligé de faire une infiltration tous les mois, c'est sans doute que ce n'est pas forcément la solution au problème. Alors, il y a deux principales techniques. Donc, il y a ce qu'on appelle une épidurale. L'épidurale, en fait, c'est une injection de cortisone au milieu de la colonne. Donc, c'est un peu comme les péridurales que peuvent faire les anesthésistes avant une intervention. C'est surtout réservé dans les problèmes de lombosciatique, quand il y a une douleur donc, dans la jambe, un problème discal ou autre. Et puis, après, on peut également cibler la partie postérieure de la vertèbre. Donc, c'est ce qu'on appelle les infiltrations des articulaires postérieures, qui s'appartient ici. Donc là, on peut faire plusieurs étages, où là, c'est plutôt quand il y a un problème d'arthrose et douleur lombaire plus située. Donc c'est pour ça que finalement, en fonction de la douleur, peut-être qu'à un moment, il y a une douleur qui est plus de sciatique, auquel cas on fait une épidurale, et on peut proposer après quelque chose plus au niveau du dos, si la douleur s'est modifiée. Dans la prise en charge médicale, donc, il y a le repos. Bon, le repos, on dit que c'est le plus bref possible. Alors bien sûr que si vous avez un lumbago, une lombalgie aiguë, se reposer un minimum. En tout cas, ce qui est prouvé, c'est qu'il faut reprendre le plus rapidement possible des activités. La prise en charge kinésithérapique, La kinesthérapie, donc, c'est le traitement par le mouvement. Donc, je ne vous parlerai pas beaucoup des massages, bien que c'est très agréable d'avoir un massage au niveau du dos. Mais il y a plusieurs protocoles et l'idée, c'est quand même d'essayer de donner des exercices pour qu'il y ait une auto-prise en charge. Donc, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Soit on veut assouplir parce qu'il y a un enraidissement au niveau de la colonne, soit on veut renforcer les muscles. En général, on le cherche à chaque fois. Donc, c'est vous faire une ceinture de muscles, renforcer les muscles abdominaux et les muscles spinaux en arrière. Et puis, il y a également tout un travail de correction au niveau des postures pour éviter les rechutes. Donc, l'idée, c'est de... à un moment de la maladie, à la phase aiguë, on fera plutôt quelque chose d'un peu plus doux. Quand l'épisode est passé, eh ben, on va être plutôt sur quelque chose du renforcement pour justement éviter que ça ne revienne. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'il y a vraiment une auto-prise en charge, de faire après des exercices par soi-même, une activité sportive plus ou moins intense, en fonction de vos possibilités, pour éviter que les douleurs ne reviennent. Il y a également des programmes de réentraînement à l'effort qui peuvent se faire donc, dans le cadre d'une hospitalisation, où là, c'est une hospitalisation un peu plus complète, où on fait une réadaptation de la colonne vertébrale, enfin pour apprendre à faire des mouvements. Les ceintures lombaires, pourquoi pas ? Donc bon, j'ai pas mis, enfin il y a plusieurs marques, j'ai pas de préférence. La seule chose, c'est que on nous dit souvent, oui, mais je vais démuscler. Bon, alors l'idée de la ceinture lombaire, c'est quand même, il vaut mieux faire des choses avec une ceinture. Ça peut permettre au départ de reprendre après un épisode aigu, plutôt que de ne rien faire, où là, effectivement, c'est sûr que vous allez vous démuscler. Donc, ça permet de rappeler un petit peu à l'ordre pour pas éviter de faire des mouvements trop rapides, et ça permet de passer un cap pour reprendre les choses, toujours dans l'idée de vraiment faire dans le mouvement. Bon, les manipulations, l'ostéopathie, c'est pas quelque chose, moi, que je pratique, mais... Je ne sais pas de choses. En tout cas, c'est réservé surtout sur les formes aiguës. Il faut vraiment avoir écarté, fait ce bilan avant pour écarter, être sûr qu'on est bien dans un problème mécanique. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de prévention au niveau des rechutes. Et puis, quand on est dans le cas où on a une douleur qui persiste, qu'on a essayé, on a essayé des traitements, qu'on a réadapté, on a fait une, deux infiltrations, une prise en charge adaptée, que l'ensemble des examens montre une bonne corrélation. On arrive à expliquer sur les examens scanner ou IRM d'où vient la douleur. Si ça résiste à tout ça, à ce moment-là, on va discuter éventuellement une chirurgie. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à Madame Bataille pour la vision plus en médecine générale.
Bonsoir, moi je vais vous parler du rachis à travers les yeux du médecin généraliste. Les médecins généralistes, bien sûr, sont confrontés très souvent. Non, je préfère que tu passes, tu appuies sur le contour. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Ouais. Donc en médecine générale, les pathologies. Je vais attendre que tu fasses. Voilà, tu vas tourner mon truc. Et donc en médecine générale, les douleurs du rachis et les pathologies rhumatismales, ce sont de nombreuses consultations pour le médecin généraliste. C'est pour ça que j'ai intitulé mon topo le rachis, ses joies, ses peines, mais voilà le point de vue du médecin généraliste. Donc on va rebrosser ensemble un petit peu toutes les pathologies, ce sera un petit peu redondant, mais moi je vais vous parler à travers les yeux de la médecine générale, parce qu'on est en première ligne, effectivement, devant des douleurs. Quel est le rôle du médecin généraliste ? Qu'est-ce qu'on demande de lui ? De le soulagement, mais également finalement de passer la main quand il y a besoin. Et donc, on va distinguer en gros deux situations. Les situations, les douleurs aiguës et les douleurs chroniques qui persistent malgré un traitement. Bien sûr, tout ça en rapport avec le rachis. Dans les pathologies aiguës, qu'est-ce qui est bien sûr en premier ? C'est les douleurs aiguës, les douleurs de l'imbago, ce qu'on appelle le limbago, sont des douleurs aiguës très intenses, en général qui survient après soit des efforts violents, mais souvent ça peut être aussi un effort minime, et ça correspond à une contracture du rachis lombaire très douloureuse. C'est une pathologie qui est transitoire, qui est bénigne, mais qui fait quand même très mal et ça demande un traitement efficace. Après les douleurs lombaires aiguës, vous avez les douleurs du rachis cervical, les douleurs du rachis cervical aigu, qui sont dues soit à une personne qui a de l'arthrose cervicale et c'est une poussée d'arthrose, c'est-à-dire que sur l'arthrose, il y a une poussée avec une inflammation au niveau des surfaces articulaires des vertèbres. Et vous pouvez également avoir des douleurs cervicales aiguës qui sont dues secondaires à une tension anormale du rachis cervical. Donc pour un médecin généraliste, c'était vraiment la consultation du lundi quand il commençait à faire beau. C'était les femmes qui avaient fait nettoyer leurs vitres et qui avaient une douleur au niveau du rachis cervical parce qu'effectivement elles avaient le cou tendu. Et puis c'était les hommes effectivement qui avaient taillé leur haie. Alors ça paraît un peu sexiste, mais j'ai jamais vu un homme venir parce qu'il avait nettoyé les vitres. Donc c'est les douleurs du lundi matin avec vraiment des douleurs cervicales par une tension anormale du rachis cervical. Donc c'est dans ces deux situations, la douleur résulte d'une contracture des muscles paravertébraux. Il n'y a pas de pathologie sous-jacente, mais c'est vraiment une contracture des muscles paravertébraux et c'est un problème musculaire. C'est un phénomène qui s'auto-entretient parce que la contracture entraîne la douleur et la douleur amplifie la contracture. C'est pour ça que même si ce sont des pathologies bénignes, en médecine générale, on est vraiment confronté à ce genre de pathologie où les gens arrivent au cabinet vraiment, vraiment coincés et parce que cette contracture musculaire vraiment entraîne la douleur et la douleur amplifie la contracture. Donc dans ces pathologies aiguës qu'on vient de voir, c'est-à-dire que les douleurs lombaires et les cervicalgies, ce sont les muscles qui sont en tension et ce sont les muscles, cette contracture musculaire qui entraîne les douleurs. Dans les autres situations aiguës, vous avez les sciatiques, donc avec cette douleur le long de la jambe. Les névralgies cervico-brachiales, ce sont des douleurs du bras. Quand vous avez, comme on vous a expliqué tout à l'heure, un nerf qui est coincé au niveau cervical avec des douleurs qui le long du bras. Vous avez également des névralgies d'Arnold. C'est une pathologie assez fréquente et souvent le diagnostic n'est pas fait tout de suite. Ce sont des douleurs qui partent de la base du cou et qui remontent vers l'œil en prenant effectivement tout le crâne. Et ces trois pathologies, elles ont la même cause, en fait. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est une compression d'un nerf entre deux vertèbres qui va être coincée. Et là, à ce moment-là, il va falloir effectivement avoir des techniques un peu plus poussées pour pouvoir libérer ces douleurs, et souvent, elles deviennent plus chroniques. Quel est le rôle du médecin généraliste devant ces douleurs aiguës que l'on a vues? C'est premièrement soulager la douleur, soulager le patient. Pour soulager le patient, effectivement, il y a le repos, qui n'est pas toujours facile à obtenir, mais le repos est très important, puisque que ce soit dû aux muscles qui sont contracturés ou cette racine nerveuse qui est comprimée, le repos va effectivement être un facteur important. Les médicaments, donc on vous les a dit, effectivement, c'est les antalgiques. On va commencer par des antalgiques comme le paracétamol et des antalgiques de palier 1. Et puis, si la douleur persiste, on a effectivement un arsenal thérapeutique où on va pouvoir donner d'autres médicaments plus forts. Les anti-inflammatoires et autrement, des médicaments qui s'appellent les myorelaxants qui auront pour rôle de faire une décontracture du muscle. Donc, autrement, la troisième technique pour un médecin généraliste, effectivement, on va adresser les patients chez un kinésithérapeute pour des massages ou pour chauffer. Les douleurs lombaires répondent bien, effectivement, aux lampes des kinés. À ce stade-là, quand on voit un patient à un stade aigu, on ne demande pas des explorations très poussées. Dans la plupart des cas, 9 fois sur 10, il s'agit d'un épisode aigu qui ne demande pas d'exploration complémentaire et on ne va pas se lancer éventuellement peut-être dans des radios si on suspecte une arthrose sous-jacente, mais on ne va pas demander de scanner, pas d'IRM, parce qu'on est devant une situation aiguë. D'ailleurs, c'est comme nous le demande, d'ailleurs, on a des recommandations par la Caisse nationale d'assurance maladie et puis par le HAS Donc, c'est des recommandations que nous avons et de toute façon qui sont tout à fait justifiées. C'est pareil, on ne va pas non plus demander un bilan biologique tout de suite pour demander un syndrome inflammatoire parce qu'on est vraiment devant une pathologie aiguë. Dans ces pathologies aiguës, il y en a une seule, effectivement, qui représente une urgence où il faut que le médecin généraliste adresse son patient aux urgences, c'est en cas de sciatique paralysante. C'est-à-dire qu'en plus de la douleur le long de la jambe, vous avez une paralysie du pied, c'est-à-dire que le patient ne peut pas effectivement bouger son pied, et effectivement, c'est la seule situation dans l'aigu où il faut envoyer aux urgences. Autrement, donc dans cette pathologie aiguë, comme vous voyez, le médecin généraliste va répondre à cette pathologie avec du repos, des médicaments, de la kiné, un arrêt de travail, et 9 fois sur 10, ça suffit. On va donc rentrer dans les situations chroniques, c'est-à-dire que si la situation aiguë, soit elle dégénère et ça perdure, soit ça devient la pathologie devient plus fréquente, hein, on arrive dans les situations chroniques. Donc la douleur persiste malgré les traitements, aussi bien au niveau du cou, au niveau du rachis cervical, au niveau du dos, au niveau des lombaires. Et vous pouvez avoir soit des douleurs qui persistent, soit des sciatiques qui deviennent chroniques. Moi, j'avais des patients effectivement qui venaient très régulièrement avec des sciatiques à répétition. Il est bien évident que là, à ce moment-là, les explorations deviennent nécessaires. Et également, ces névralgies du membre supérieur, qu'on appelle les névralgies cervico-brachiales, quand vous avez une compression au niveau du rachis cervical, sont des douleurs excessivement, sont des douleurs excessivement violentes. Alors à ce moment-là, quel est le rôle du médecin généraliste devant ces douleurs qui deviennent chroniques? À ce moment-là, dans un premier temps, il faut faire des explorations. À ce moment-là, on va commencer à demander des radios, un scanner, parce qu'il faut chercher une cause organique à ces pathologies qui sont passées de l'aigu au chronique. Dans un bilan sanguin, on va demander effectivement s'il y a un syndrome inflammatoire. On peut aussi avoir des éléments dans le bilan sanguin qui vont nous faire suspecter une tumeur maligne. Et le rôle du médecin généraliste également, devant ces douleurs chroniques, de chercher les facteurs qui vont prédisposer la chronicité. Et par exemple, le surpoids. Et quelqu'un qui a des douleurs lombaires chroniques, qui a des sciatiques à répétition, le surpoids est quelque chose d'important. Donc avant de se lancer dans souvent des explorations ou des techniques très importantes, il suffit de faire perdre aux patients du poids. Il ne faut pas oublier également la recherche des pathologies du travail. Les gens souffrent de plus en plus de pathologies au travail, soit par des positionnements anormaux ou des ports de charge douloureuses, le stress au travail de toute façon. Et il faut, à ce moment-là, je me tourne auprès de mon confrère médecin du travail pour voir comment est-ce qu'on peut aménager le poste du patient. Si effectivement on peut suspecter une pathologie du travail. Dans les causes également, les facteurs qui peuvent aggraver, il y a des personnes qui font du sport d'une manière trop intensive hein, et il faut effectivement rechercher des causes qui sont comme cela. Alors j'ai rajouté également le syndrome anxio-dépressif et je peux vous dire que en tant que médecin généraliste, j'ai vu énormément de patients, enfin de patientes, souvent c'est vrai que c'est plutôt des femmes, qui ont des réelles douleurs lombaires avec des réelles contractures et en fait ça signe un syndrome anxio-dépressif sous-jacent. J'ai eu comme exemple effectivement une femme qui était jeune, qui avait 35 ans, elle avait été elle avait le même travail mais elle était mutée à un poste qui lui plaisait moins et je l'ai traitée pendant longtemps pour des douleurs lombaires avec des réelles contractures, mais vraiment très, très importantes. Elle avait eu vraiment pas mal d'examens, tout ça, c'était normal. Et le jour où elle a changé de poste et qu'elle a retrouvé un travail qui l'intéressait, pendant 15 ans, elle ne m'a plus jamais reparlé de douleurs lombaires. Donc, il ne faut pas non plus oublier, effectivement, le syndrome anxio-dépressif peut très bien engendrer les douleurs lombaires. Et c'est pareil, c'est le même phénomène que tout à l'heure, ça s'auto-entretient. Le médecin généraliste, donc, vous avez vu cette prise en charge chronologique, hein, avec beaucoup d'écoute du patient, ce qui est très important. Quand on a fait les explorations, et qu'on suspecte effectivement une compression d'un nerf, à ce moment-là, on adresse le patient au rhumatologue pour une infiltration. Et les infiltrations dans les pathologies d'émergence du nerf qui sont comprimées, effectivement, on obtient de très bons résultats. Donc, selon les résultats des investigations et des traitements réalisés, le patient peut être adressé à un chirurgien, donc soit un orthopédiste, soit un neurochirurgien. Avant, la frontière était difficile à cerner. Donc maintenant, c'est très pratique parce que grâce à l'unité Rachis, ça nous permet d'adresser les patients à l'unité Rachis où les patients vont être bilantés et vont être adressés au chirurgien qui prendra en charge de manière la plus pragmatique les patients, puisque cette unité Rachis va rassembler les deux compétences. Après avoir vu, donc effectivement, vous avez vu les pathologies aiguës et chroniques, le médecin généraliste peut être également confronté à des patients qui sont effectivement dont la prise en charge va être plus compliquée. C'est les patients qui ont été opérés une fois ou plusieurs fois. Et donc, sont les douleurs persistent. Alors là, on est dans un autre domaine, puisque la chirurgie n'est plus de priorité, puisque ce sont des patients qui ont déjà été opérés. Et le médecin généraliste adresse ces patients au centre antidouleur, où ce sont des consultations multidisciplinaires avec plusieurs spécialités, avec des médecins qui sont spécialistes de la douleur, des neurochirurgiens et également des psychiatres. Donc voilà, je vous ai dressé un petit peu les tableaux auxquels sont confrontés les médecins généralistes avec les mots peut-être un peu moins techniques, mais les mots de médecine générale, où vous avez peut-être retrouvé des tableaux auxquels vous avez été confrontés. Donc voilà.
Bien, bonjour. Donc, après le point de vue du rhumatologue et du médecin généraliste, je rebondis un petit peu sur ce que vient de dire Martine et qu'avait exposé Géraldine. Finalement, il faut bien comprendre que la démarche est longue avant d'arriver au chirurgien. C'est normal, puisque le chirurgien, lui, va agir avec ses mains, ses outils, avec le but de réparer un organe ou de le remplacer lorsque l'organe est trop défaillant. Donc, ce n'est pas une décision qui se prend d'un claquement de doigts devant quelques symptômes vaguement douloureux. C'est une démarche réfléchie. Alors, j'ai volontairement séparé ma présentation en deux parties. Une première partie théorique dans laquelle je vais reprendre une grande partie du discours de Géraldine et également de Martine sur les symptômes. Ça ne va pas être redondant parce que je crois que 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage. Et il faut bien comprendre que la démarche qui conduit de la médecine à la chirurgie, c'est la même. On part d'un symptôme, une douleur du dos, de la jambe, et on va arriver à une lésion d'organe. Il ne faut pas se tromper sur la lésion ni sur le symptôme pour opérer à bon escient. Sinon, c'est source de déboires et de situations pour lesquelles mon collègue et ami neurochirurgien qui me suivra a des solutions, mais qui deviennent là très compliquées. Donc, autrement dit, évitons d'arriver à cette situation que vient de décrire Martine, à savoir un patient multiopéré qui a toujours mal. Alors, la première partie sera théorique, je viens de dire. La deuxième sera plus pratique, puisque je vais vous montrer des exemples. Donc, vous comprendrez bien que pour des raisons de secret médical et de confidentialité, cette partie-là n'est pas dans le document qui vous a été remis et que ça nécessitera un petit changement de PowerPoint. Mais là, c'est pour vous montrer plus la pratique de ce que peut faire le chirurgien dans les différentes situations. Alors, j'ai choisi de répondre par 10 diapositives en tout à 5 questions. Quelle maladie peut-on opérer ? Le mal de dos, lumbago ou lombalgie, n'est pas une maladie, c'est un symptôme. La sciatique n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Donc la première étape, comme cela vient de vous être dit, consiste à partir du symptôme pour arriver à la maladie. Alors, je pense que certains d'entre vous sont passés voir différents spécialistes, pas d'ailleurs forcément pour des problèmes de dos, et ont pu s'étonner du fait que chaque fois, il faut répéter « Ah, mais je l'ai déjà dit au rhumatologue, je l'ai déjà dit au kiné ». Certes, le chirurgien qui voit le patient à la fin du parcours médical, il a besoin de tout savoir parce qu'il n'est pas simplement un manœuvre qui va bricoler dans le moteur. Il a besoin de comprendre ce qu'il va faire et pourquoi il va le faire. Donc, il doit tout reprendre depuis le début. Quand est-ce que ça a commencé? Aigu, chronique, la fréquence des récidives, etc. Deuxième question, quand doit-on opérer? Troisième question, un peu plus parlante, et ça sera illustré donc dans la deuxième partie de mon exposé, quelle technique utilise-t-on? Quel est le sens des mots que vous allez employer? Parce qu'on est obligé d'avoir un jargon médical. On a des mots, on ne les a pas choisis, on les a appris nous-mêmes. La formation d'un chirurgien, qu'il soit du rachis ou autre, comme celle d'un rhumatologue, prend 7 ans de spécialité. Et bien pendant cette durée, on apprend des mots, on apprend des techniques. Et donc, forcément, on utilise ce langage que je vais essayer de vous rendre un petit peu plus clair. Quelles sont les suites de la chirurgie? Et j'aborderai une question qui ne doit pas être taboue. Toute chirurgie comporte, bien sûr, des risques de complications. Alors, le symptôme lombalgie ou et sciatique peut aboutir au diagnostic de ce qu'on appelle la hernie discale. Donc, on opère effectivement la hernie discale quand le traitement médical est en échec. Martine vous a bien dit que le généraliste, lorsque la hernie discale est responsable d'une sciatique, symptôme paralysante, où on ne bouge plus le pied, là, on l'envoie à l'hôpital, on fait des examens complémentaires, scanner le plus souvent, et le chirurgien intervient. Il va retirer la hernie pour guérir la sciatique. Mais il va laisser le reste du disque. Et si le reste du disque est malade, usé, il continuera à faire mal au dos, lombalgie. Donc cette opération qui ne porte que sur la hernie du disque guérit la sciatique, mais pas toujours et pas pour longtemps, de toute façon, la lombalgie. Donc l'étape suivante, c'est que fait-on avec cette dégénérescence des disques liée à l'usure? Eh bien, si elle devient réellement invalidante, et là, on a recours à des questionnaires de qualité de vie qu'on vous fera remplir, des auto-questionnaires, des questionnaires plus médicaux, eh bien, sous certaines conditions, on pourra proposer de retirer complètement ce disque malade et de le remplacer. On verra par la suite pourquoi. Qu'est-ce qu'on opère également? Philippe vous a montré au début ce cheminement depuis cette colonne jusqu'à ce rachis harmonieusement courbé, eh bien, l'usure des disques peut provoquer une déformation du rachis, auquel cas les conditions dont il vous a parlé ne sont plus réunies pour un bon équilibre debout. Là, je suis debout, je ne bouge pas, je dépense peu d'énergie, j'ai pas mal au dos. Si ma colonne se déforme vers l'avant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être obligé de contracter sans arrêt mes muscles pour me tenir droit. Je vais parfois devoir un peu plier les genoux pour me tenir droit, et là, j'aurai mal au dos. Donc peut-être que dans certains cas, enfin pas peut-être, on peut corriger les déformations de la colonne secondaire à l'usure des disques. Et qu'est-ce qu'on opère enfin? Le canal lombaire, dont on vous a parlé également, dans lequel passent les racines nerveuses après la moelle épinière, hein, on parle du lombaire essentiellement. Lorsque ce canal se rétrécit par l'arthrose, par l'usure des disques, eh bien parfois il faut l'ouvrir, ce canal, pour redonner de la place aux formations nerveuses. Alors, on opère également, c'est le cas à part, mais qui existe, des maladies qui déforment la colonne sans même que les disques soient usés. Hein, il y a des déformations de la colonne chez l'enfant, l'adolescent. Et il y a une espèce de maladie qui porte également un nom particulier qu'on appelle, alors, spondylolisthésis, veut dire glissement d'une vertèbre en avant d'une autre. On en verra les causes potentielles et des exemples. C'est plus parlant sur les exemples. Pardon. Enfin, parfois, on opère des tumeurs, primitives rarement, mais malheureusement parfois secondaires à une maladie cancéreuse. Et enfin, on peut opérer d'autres lésions infectieuses, et c'est beaucoup plus rare. Alors, quand doit-on opérer? Eh bien, la condition, c'est que les symptômes de l'anomalie, de la maladie, résistent au traitement médical. Tant qu'on peut contrôler une dégénérescence des disques par des antalgiques, le paracétamol étant le meilleur antalgique, s'il est donné à dose efficace, eh bien, on s'en contente. Et on va faire appel au kiné pour remuscler, tout en assouplissant. Parfois, on va avoir recours à des centres de rééducation pour des séjours en hospitalisation de plus longue durée. Le rhumatologue va ajouter une petite infiltration dans la facette articulaire. Tous ces traitements ne s'opposent pas. On n'oppose pas le médecin, le rhumatologue, le kiné, le neurochirurgien, l'orthopédiste. Non, on travaille ensemble. Et d'ailleurs, comme l'a dit Martine, d'une part, depuis de longues années, on a des consultations communes rhumatologues, chirurgiens et rééducateurs au CHU. Et plus récemment, puisque c'est le 2 janvier, les neurochirurgiens, orthopédistes et les autres se sont unis dans une unité fonctionnelle qui prend en charge toutes les maladies de la colonne vertébrale, de la petite fracture la plus banale jusqu'à la déformation la plus importante. Donc on opère lorsque les symptômes ne cèdent pas au traitement médical. On opère aussi quand la gêne fonctionnelle le justifie. Et là, c'est l'importance des questionnaires qu'on vous fera remplir, pas une fois, parfois tous les 6 mois, avec des scores, incapacité. Il y a un score mondial, international qui s'appelle ODI, en pourcentage. Eh bien, lorsque l'incapacité dépasse 40%, vous avez à répondre à 10 questions très simples. J'ai mal un peu beaucoup passionnément, je peux soulever des objets, je ne peux plus, je peux m'asseoir, je peux rester debout. On fait le score et à l'issue de ça, on peut être amené à décider un traitement chirurgical. Et on opère également quand la situation globale se détériore, en restant attentif à une composante dont Martine a parlé, qui est la composante psychologique, anxio-dépressive. La chirurgie ne va jamais guérir une dépression, elle va l'aggraver. C'est pas rien, hein, la chirurgie. Donc, on prend garde d'abord d'opérer un patient quelque part qui a le moral, qui croit que l'opération va le soulager. Donc, on est très attentif à ce côté. Alors, après, quelle maladie peut-on opérer? Quand doit-on ou peut-on opérer? Il y a aussi des conditions. Et ça, ce sont des conditions sine qua non. C'est comme une checklist. On ne décolle pas si toutes les conditions ne sont pas réunies. Il faut qu'il y ait, et c'est un mot qui a été employé, et j'insiste, une concordance parfaite entre le symptôme et l'organe qu'on va opérer. Parce que, par exemple, la sciatique. Vous avez une sciatique de trajet L5, hop, côté de la cuisse, etc., jusqu'au pied. Le scanner vous montre qu'il existe certes une hernie discale, mais elle est à un niveau qui ne correspond pas à cette racine. Eh bien, si on retire la hernie, la sciatique n'a aucune raison de disparaître. Alors, on sera peut-être content d'avoir retiré la hernie, mais le patient ne sera pas content de toujours avoir sa sciatique. C'est ce que j'appelle la concordance. Et les symptômes, je vous rappelle, le lumbago, c'est la douleur aiguë, brutale, qui ne se perd jamais, qui se traite comme on vous l'a dit. La lombalgie chronique, il faut attendre des délais très longs avant d'éventuellement l'opérer. Par contre, sciatique, cruralgie, déformation, trouble de la marche, tout ça peut justifier une opération. Alors la concordance, elle est entre le symptôme et la lésion anatomique de l'organe, que l'on dépiste par l'imagerie. Et c'est pourquoi, parfois vous direz, mais quand même, j'ai déjà eu un scanner, pourquoi en plus une IRM? Parce que ça ne montre pas la même chose. Le scanner va vous montrer l'os, l'IRM, tout ce qui est mou, pour faire schématique. A l'inverse, rien ne sert à faire, si vous avez une pathologie mécanique, 2 IRM par an. Non. Les recommandations dont on parlait tout à l'heure sont valables également. 1 IRM par an pour suivre un disque dégénératif suffit largement. Mais il ne faut pas oublier qu'on aura toujours besoin aussi des radiographies standards. Philippe vous a bien montré ce rachis incurvé amormonieusement. Ça, on ne le voit ni au scanner ni à l'IRM qui se font coucher. On ne le voit que sur des radios de la colonne entière prise debout. Parfois, on aura besoin d'autres examens, scintigraphie, bien sûr, des bilans biologiques, des explorations électromyographiques, et on opérera quand tout ça est concordant. Le symptôme s'explique par la lésion anatomique qu'on se propose de traiter. Alors, les techniques chirurgicales, en gros, encore une fois, c'est facile, j'interviens après que l'essentiel ait été dit. Philippe vous a dit la colonne, elle permet de tenir debout. Alors, quand elle est défaillante, quand elle n'est plus stable, la chirurgie peut aider à la stabiliser. Rôle mécanique. La chirurgie peut aussi corriger une déformation qui empêche cette colonne d'être équilibrée. Et la chirurgie permet enfin, parfois, de décomprimer une racine nerveuse ou lorsque la dure mère, le fourreau dural est coincé, on peut le décomprimer. Alors les moyens qu'on emploie portent des noms. Laminectomie signifie qu'on va retirer les lames. Ectomie en médecine signifie retirer pour décoincer le fourreau dural. Recalibrage signifie qu'avec une petite fraise, on va élargir les trous par où sortent les racines nerveuses pour les décoincer. Ostéosynthèse signifie synthèse de l'os. On va fixer les vertèbres parce qu'elles sont instables, parce qu'elles se déforment, parce qu'elles n'ont plus la bonne position l'une par rapport à l'autre. Arthrodèse va signifier qu'on va les bloquer définitivement. Arthro, articulation, dèse, blocage. Et là, c'est définitif. Fixation dynamique signifie qu'on va mettre un système moins rigide, laissant persister quelques mouvements. Et il existe également des techniques de remplacement sous certaines conditions très précises des disques intervertébraux par des prothèses. Alors, voilà les principes de la chirurgie, les techniques employées. Bien sûr, tout ça peut se faire de différentes façons. La colonne lombaire peut s'aborder par le milieu du dos, c'est logique, là où on sent nos apophyses épineuses. Et là, les progrès actuels se font au niveau de la taille des cicatrices qu'on cherche à minimiser, non pas tant pour l'aspect esthétique que pour préserver, éviter d'endommager les muscles. Certaines opérations, notamment l'ablation d'une hernie discale, peuvent carrément se faire par un petit tube avec une incision qui fera à peine 1,5 cm, une lumière qui éclairera le fond du puits et qui permettra de retirer la hernie. Mais on peut aussi aborder les vertèbres lombaires par des voies antérieures, qui portent différents noms, lombotomie, thoracotomie, etc. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la tendance actuelle est de faire les voies d'abord le plus minime possible pour préserver la musculature et donc faciliter des suites plus simples. Alors, les suites de la chirurgie, elles ont le même objectif que la médecine. La chirurgie est un moyen parmi d'autres et nous travaillons en équipe avec tout le monde à le même souci d'un retour le plus rapide possible à l'autonomie. Donc après l'opération, ne vous étonnez pas. Il n'y aura pas de ces longues périodes de repos allongées où vous interdisez de bouger pendant une semaine, de vous mettre assis pendant 3 semaines. Ça n'a aucun sens. Toutes les études montrent que l'activité physique musculaire est le meilleur garant d'une récupération rapide et évite les récidives. Donc, quelle que soit l'opération pratiquée, alors sauf cas particulier, le lever survient quasiment le lendemain ou pire le surlendemain de l'opération, avec des exercices à faire soi-même, auto-rééducation, et ensuite chez le kiné, ce qui peut être en libéral ou plus rarement quand les conditions sociales du patient le nécessitent, en centre spécialisé. Le but, c'est finalement, j'ai mis reprise du travail, du moins retour à son activité antérieure. On a tendance souvent à considérer que parce qu'un patient a été opéré du rachis, il devient quelque part à vie invalide. Non, non. On a réparé, voire remplacé, mais le plus souvent réparé une lésion anatomique pour soulager ses symptômes. Eh bien, bien sûr, moyennant aménagement de ses conditions de travail, rien ne s'oppose à ce qu'il reprenne son activité, tant professionnelle que de loisirs et de sport. Alors, bien sûr, on ne peut pas, à mon sens, parler de chirurgie sans évoquer malheureusement des complications, parce que d'une part, d'un point de vue déontologique, mais également d'un point de vue légal, nous, soignants, avons obligation d'informer nos patients, bien sûr, du principe de l'intervention choisie, des alternatives thérapeutiques, est-ce qu'on peut faire autre chose, mais aussi des risques et complications, malheureusement, toujours possibles, chiffrés, et qui font l'objet de mesures préventives permanentes. On met souvent en avant l'infection nosocomiale dans les hôpitaux. Sachez que les hôpitaux, comme les cliniques, mettent en œuvre des moyens considérables pour lutter contre cette infection en termes de qualité de l'air dans les salles d'opération, d'entretien des locaux. Il y a une chaîne de personnes incroyable qui intervient entre votre arrivée à l'hôpital et votre entrée dans la salle d'op pour que ça soit dans les conditions de sécurité optimales. Mais malgré tout, il reste un peu moins d'1% des cas où surviendra une infection. Tout ça pour dire qu'il faut, quand on se fait opérer, qu'on sache qu'il y a, il doit toujours y avoir une solution de reprise possible. Et ça, c'est notre travail, de dire je vais faire ça, et si ça ne marche pas ou si ça se complique, eh bien j'aurai toujours une autre solution de rattrapage. Donc c'est ce qu'on appelle la reprise chirurgicale. Il faut savoir que la surveillance post-opératoire est nécessaire, hein, jusqu'à ce que la situation soit stabilisée. Et puis finalement, et ça sera après que je vous ai montré les cas précis, l'objet de la dernière présentation, même s'il persiste après le travail du chirurgien qui a réparé la lésion des douleurs, eh bien, il y a encore et toujours des possibilités de recours. Et c'est pourquoi nous nous sommes tous associés dans cette unité pour accompagner le patient du début jusqu'à la fin sans jamais l'abandonner. Alors, si tu peux me mettre les exemples. Donc, on va voir quelques exemples. Voilà. Alors, donc, je vais commencer quand même par une partie importante du travail des chirurgiens du rachis, à savoir les fractures. Donc, vous voyez ici une coupe scanographique horizontale. Hein, c'est comme on vous a découpé en tranches de saucisson. Et voilà donc le canal dont parlait Philippe est occupé par un fragment osseux qui a reculé, qui comprime donc la moelle épinière. On est ici en T12. Et vous voyez que la vertèbre, c'est en quelque sorte une explosion de la vertèbre. Eh bien, par des techniques désormais, donc, comme vous voyez, assez peu invasives, hein, la cicatrice fait 8 cm, comme vous le constatez ici. Voilà, hein, il y a même une petite réglette. Eh bien, on peut finalement faire des choses assez intéressantes sur le plan de la réparation. On a fixé les vertèbres en arrière par des vis et des plaques ou des tiges qui relient ces vis. Et en avant, on a remplacé le corps vertébral qui était explosé par un implant en titane qui permet donc à l'os de repousser à l'intérieur et de consolider les vertèbres. Alors, bien sûr, vous me direz, ce segment-là, il va être raide. Ah ben oui, oui, il va être raide parce qu'il est bloqué. Il est bloqué parce que la fracture nécessitait ce blocage. C'est pourquoi on va surveiller dans les années suivantes l'évolution. Donc ça, c'est une part importante de l'activité donc, qui prend en charge les traumatisés de la route, mais aussi les traumatisés du travail, les défenestrations et tout genre d'accidents. Alors là, vous voyez également une colonne en 3 dimensions. Ce n'est pas une colonne en plastique, c'est une reconstruction scanographique en 3D d'une colonne vertébrale tordue. Alors là, c'est une maladie de l'adolescent, de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte jeune qui tord la colonne vertébrale et qui va donc la mettre dans des positions pour lesquelles l'avenir ne sera pas très favorable pour le fonctionnement des disques, etc. Donc, vous voyez à peu près l'aspect clinique qui correspond avec une déformation eh bien, qu'on peut corriger pour, effectivement, chez cette adolescente de 17 ans, assurer un avenir donc, vous voyez, meilleur grâce à une restitution de sa morphologie. Elle est droite de face, elle est harmonieusement courbée de profil et la bosse, qui n'était pas très esthétique par ailleurs, a disparu. Alors, cette jeune femme, d'ailleurs, me direz-vous, comment est-ce qu'on fait ? Pardon, voilà. Eh bien, on implante au niveau des vertèbres un matériel d'ostéosynthèse qui permet la correction et la stabilisation définitive. Alors, me direz-vous, là, ça s'arrête sur la première lombaire, elle va être raide. Eh bien, non, pas tant que ça, car bien sûr, à cet âge-là, les jeunes s'adaptent. Et cette femme qui avait à l'époque 17 ans, en a maintenant 40. Elle a eu 3 enfants et menait une vie strictement normale. Donc cette scoliose, maladie de l'adolescent, qui vient du mot scoliose grec, sinueux, comme syphose vient du grec kyphos rond, Cette scoliose, je parle sous contrôle d'un grec, cette scoliose ne se voit pas que chez les adolescents et les adultes jeunes, bien sûr. L'adolescent qui a une scoliose la gardera toute sa vie, mais il existe aussi une autre forme de scoliose qui apparaît chez des personnes plus âgées qui, elle, est dite secondaire, à l'usure des disques. Eh bien, l'âge ne constitue pas un frein à la correction de cette déformation, à condition que la gêne soit importante. Or, cette jeune retraitée, à l'époque très active, était très gênée de se voir se déformer petit à petit, inéluctablement, de par l'usure de ses disques. Eh bien, dans ces cas-là, on applique, vous voyez, la radiographie qui correspond, qui montre bien cette grande sinuosité avec un angle de plus de 90 degrés. Eh bien, il est également possible ici de la corriger. Alors, bien sûr, moins complètement que sur un rachis plus jeune, mais suffisamment ici, comme vous voyez, pour lui permettre de retrouver une bien meilleure statique, un meilleur alignement et une meilleure fonction. Avec donc, j'ai mis cette photo immédiatement post-opératoire, un lever qui se fait également au bout de 24 heures et une reprise, un retour le plus rapide possible à l'autonomie. Alors ensuite, il existe d'autres anomalies. Là, on va monter en âge chez l'adulte un peu plus âgé, vers la trentaine. S'agit d'un patient qui présente ce qu'on appelle un spondylolisthésis. Alors là, c'est franchement compliqué. Listhésis signifie glissement et spondylo, le corps de la vertèbre, vous le voyez ici, qui glisse en avant du sacrum. Alors pourquoi glisse-t-il ? Parce que il s'est produit sur une partie postérieure de la vertèbre, ce qu'on appelle une lise ischémique, c'est-à-dire une rupture. C'est l'équivalent d'une rupture de fatigue, hein, comme ces fractures de fatigue chez les marathoniens, qui fait que l'avant de la vertèbre n'est plus tenu par l'arrière et va donc avoir tendance à glisser en avant. Alors ça, c'est source de douleur, ça peut être source de sciatique ou de cruralgie selon le niveau. Toujours est-il que ça peut aussi bien rester asymptomatique pendant des années, que ça peut devenir un jour, à une occasion X ou Y, peut-être une prise de poids, un soulèvement de charge, symptomatique. Eh bien, dans ce cas-là, la solution consiste au jour d'aujourd'hui. Alors, on ne peut pas réparer la lésion, la rupture elle-même, parce que ça ne marche pas. Donc, on bloque les vertèbres. Et vous voyez qu'on utilise ici des dispositifs médicaux avec une petite cage remplie d'os qu'on va mettre à la place du disque ici, et bien sûr on a auparavant corrigé le glissement avec toujours des systèmes de vis ou de tiges variables. Donc ça, c'est un spondylolisthésis traité par arthrodèse, blocage de vertèbres, et ostéosynthèse. Et vous voyez le glissement qu'on a corrigé en haut à droite. Mais ce spondylolisthésis peut aussi, comme la scoliose dite dégénérative, apparaître chez des personnes plus âgées, sans cette rupture de l'isthme. Mais là, c'est dû à une usure globale et diffuse de toutes les structures de soutien vertébral. On s'use tous, et oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc nos disques se déshydratent, perdent leurs compétences visco-élastiques, nos ligaments se détendent, les os se tassent un petit peu, et petit à petit, vous voyez cette patiente, d'une soixantaine d'années, voit cette vertèbre glisser en avant des autres, alors qu'il n'y a pas de rupture de l'isthme. Et ce glissement de la vertèbre va aboutir à quoi ? Eh bien, va aboutir ici à un rétrécissement du canal, qui normalement devrait à peu près avoir cette forme-là, qui va prendre cet aspect en trèfle, et à l'intérieur duquel les racines seront coincées. Donc là, bien sûr, on va chercher à corriger un peu le glissement, mais pas tant que ça. On va surtout élargir le canal. Et ce que vous voyez ici en noir dans les articulations postérieures, c'est de l'air, parce que les articulations ne fonctionnent plus bien. Et donc, il se crée une dépression qui amène de l'air dedans. Ça, c'est un signe de dégénérescence assez avancée. Donc, on va faire la même chose. On va corriger les vertèbres, les bloquer et décoincer les racines nerveuses. Et là, vous avez des vues de scanner 3D avec des logiciels de reconstruction qui permettent de vérifier que la greffe arthrodèse qu'on a faite en avant entre les corps vertébraux est bien consolidée et définitivement. Alors, à côté de ces maladies déformantes, scoliose adolescent ou adulte mûr, dite dégénératif, spondylo adolescent, jeune adulte ou adulte mûr, on a ce problème chronique de la dégénérescence des disques sans déformation. Eh bien là, vous avez l'exemple de ce qu'on appelle la hernie discale. Alors, vous voyez ici, c'est une IRM qui explore mieux le disque que le scanner que je vous ai montré préalablement, qui lui explore mieux les vertèbres, l'os. Eh bien, vous voyez ce disque ici, bombe, d'où le mot de hernie, comme une hernie dans la chambre à air qui est un peu usée, c'est exactement la même chose. Alors que vous voyez ici, l'aspect doit avoir un disque sain. Alors, l'IRM, c'est quoi ? C'est un champ électromagnétique qui va mesurer l'hydratation des tissus. Le disque, il est censé être bien hydraté. Et s'il est bien hydraté, il se voit sous forme d'un signal blanc. Là, c'est le cas. Il est blanc. Un peu gris, mais plutôt blanc. Donc ça, c'est un bon disque bien hydraté qui marche mal. Celui-ci, il est noir. Il est déshydraté, dégénératif. Mais il n'y a pas de hernie, donc il va peut-être donner la douleur lombaire, mais sans plus. Celui-ci, il est déshydraté, donc dégénératif, mais en plus, il fait une hernie qui coince les racines nerveuses. Et là, bien sûr, on va, dans ce cas précis, en fait, ce disque avait déjà été opéré par simple ablation d'une hernie 2 ans auparavant. Là, on va retirer le disque et le remplacer toujours par une arthrodèse. Et donc, vous voyez toujours le même principe d'une arthrodèse avec une cage entre les vertèbres pour les bloquer. Enfin, alors, dernière pathologie, le principal, hein, je passe les détails, c'est le canal lombaire qui se rétrécit. Alors là, vous avez un exemple flagrant. Vous voyez ici, alors là, par contre, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de spondylolisthésis, il n'y a pas de scoliose. Il n'y a pas tant de dégénérescence discale. Il y a un rétrécissement qui est dû à l'arthrose et à la dégénérescence des disques. Là, vous voyez à peu près le canal, il est L2, L3, il est à peu près de taille normale. Et vous voyez ici comme il s'est rétréci parce que les articulaires sont hypertrophiques, grossissent, comme les os dans l'arthrose. Souvent, quand le cartilage s'use, l'os s'hypertrophie et vient rétrécir le canal, de même qu'ici. Alors là, il existe une multitude de techniques. Dans les cas les plus simples, bien localisés, on peut le faire en percutané, hein, avec un petit tube. Dans un cas comme ça, où c'est sur 3-4 niveaux, bah, le principe va être de faire ce qu'on appelle une laminectomie. On retire les lames. Les lames étant cette partie-là de la vertèbre, on les ôte pour décoincer. Comme ça risque de déstabiliser le rachis, bien sûr, on fixe les vertèbres pour qu'elles ne se déplacent pas secondairement. Alors là, il va y avoir une image opératoire. Tout le monde a... Oui, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts. Donc, vous allez voir le contenu de la colonne, c'est-à-dire la dure mère, là où passent les racines, puisque, voilà, dans le cas précis, donc on a retiré le couvercle, et donc là, vous avez le fourreau dural, et vous voyez ici les racines des nerfs qui sortent à chaque niveau pour se distribuer aux jambes et donner la motricité, la sensibilité. Alors, c'est décoincé, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe après ? On a pris la précaution de mettre des vis pour fixer les vertèbres qu'elles ne se déplacent pas. Et bien sûr, on a des tissus biologiques et des cols qui permettent de protéger tout cela. Voilà. Alors, je conclurai par un dernier cas. Ces maladies du vieillissement du squelette... Elles surviennent sur ce qu'on... Alors, on a vu les deux, hein, on a vu les déformations. Il y a finalement tous les âges dans la salle. Donc, il y a des déformations qui peuvent survenir chez les jeunes. Et il y a les conséquences de l'usure sur les personnes d'âge mûr. Eh bien, tout ça, c'est un terrain arthrosique, global, diffus. Et là, vous avez cette patiente avec, je suis sûr que vous auriez fait le diagnostic, un spondylolisthésis dégénératif. Elle a une 60aine d'années. Et ce n'est pas un hasard si vous constaterez qu'en même temps, elle avait de l'arthrose dans les genoux, d'où la présence des prothèses de genoux, qu'elle avait également de l'arthrose dans les hanches, d'où la prothèse des hanches, et qu'elle avait également une usure au niveau des lombaires, d'où l'arthrodèse des lombaires, et des cervicales, avec, comme vous le voyez ici, une arthrodèse de vertèbres cervicales et ici un système dit de prothèse cervicale qui permet de stabiliser les cervicales sans les bloquer complètement. Cette personne, elle a, je la suis toujours, 82 ans et donc elle a ses quatre prothèses et ses deux arthrodèses cervicales, etc. Donc j'en ai fini et je vais passer la main à Philippe qui est quelque part l'homme du dernier recours lorsque malgré tout ce qu'on a pu faire pour soulager la douleur, celle-ci persiste et demande alors là des traitements qui sont très spécialisés, basés essentiellement sur la neurostimulation. Je vous remercie.
Merci beaucoup Pierre. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué là ? Alors moi, je passe toujours à la fin après tout le monde, donc on va essayer de faire court, mais de vous expliquer un petit peu la suite et la fin du parcours du patient qui est passé d'abord dans les mains de Martine quand il a fait son premier lumbago ou sa sciatique. Et puis Martine a tenté un traitement médical. Malheureusement, le traitement médical n'a pas donné de franc succès. Donc à un moment donné, on a fait des explorations pour savoir s'il y avait une cause ou pas aux douleurs. Une hernie qui coince, un canal trop serré, une déformation des vertèbres à un endroit donné. Martine a envoyé ce patient à Géraldine. Géraldine, elle, a complété son bilan et puis a vraiment essayé de faire la part des choses entre tout ce qu'elle pouvait essayer de soulager avec un traitement médical, avec l'aide des collègues kinésithérapeutes, avec de la rééducation peut-être du dos, avec des systèmes électriques temporaires qu'on se colle sur la peau pour essayer de masquer la douleur. Ça s'appelle la TENS, on va en reparler. En essayant de proposer des infiltrations. Et il y a un moment donné où Géraldine, malheureusement, avait face à elle un patient qui, malgré tous les bons soins qu'on peut apporter avec un traitement médical bien conduit, était en résistance du traitement médical. C'est-à-dire qu'on était face à un échec de tout ce qu'on avait pu essayer. À ce moment-là, la main a été passée au professeur Price, qui a cherché effectivement un endroit où ça coinçait. Il a opéré ce malade. Et après cette opération, malgré une ou plusieurs opérations, on se retrouve parfois avec des patients qui continuent à souffrir, à toujours présenter des sciatiques ou des lombalgies, et à ce moment-là, qui deviennent des douleurs qu'on appelle des douleurs chroniques, c'est-à-dire qui s'installent pendant plus de 3 à 6 mois et qui deviennent vraiment extrêmement invalidantes pour ce patient. Donc, on en arrive à un terme qui, sous cette abréviation, s'appelle douleur du rachis post-opératoire, c'est-à-dire un patient qui, malgré toutes les techniques qu'on aura pu déployer pour minimiser une opération et son traumatisme, c'est-à-dire des tubes au lieu de faire des grandes incisions, des écarteurs très sophistiqués en mettant des petites fibres optiques au fond pour y voir, comme le disait Pierre, au fond du puits, malgré toutes les techniques qu'on aura pu déployer pour traiter la cause de la douleur chez ce patient, malgré des toutes petites incisions, vous voyez ici, qui remplacent les balafres qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans, grâce à toutes ces techniques qu'on appelle mini-invasives, et bien même si la plupart de nos patients, après une opération, et heureusement pour vous, heureusement pour nous, si la plupart des gens qui se font opérer ont un bon résultat après une opération de la colonne, et bien il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 25% des patients qui se font opérer de la colonne et qui vont garder ou développer des douleurs post-opératoires. Alors pourquoi, quand on se fait opérer pour la bonne raison, avec un bon chirurgien, on peut à un moment donné garder ou développer des douleurs post-opératoires qui vont nous pourrir la vie ? Eh bien, c'est qu'en fait, les douleurs sont de deux types différents. Au cours de son existence, on va faire très vite, mais les douleurs sont de deux types différents. Vous avez des douleurs qui sont des douleurs aiguës, c'est-à-dire vous bricolez chez vous le week-end, vous êtes en train de monter une étagère, vous mettez un coup de marteau sur le doigt, et quand vous stimulez les récepteurs à la douleur de façon excessive, vous avez un message douloureux qui part du doigt et qui passe à travers la moelle épinière et qui est transmis au niveau du cerveau. Et vous ressentez une douleur qu'on appelle une douleur aiguë. Cette douleur aiguë, elle est liée à une stimulation de votre système nerveux et des nocicepteurs, c'est-à-dire les capteurs à la douleur qui sont stimulés de façon exubérante. Vous attendez un petit peu, vous prenez un peu de Doliprane, vous frottez un petit peu sur votre pouce pour que ça aille mieux. C'est très intéressant pour nous de savoir ça. Et à un moment donné, la douleur aiguë, elle cède. C'est exactement la même chose quand vous avez une hernie discale, un morceau de disque qui écrase une racine nerveuse. Et au bout de 2 à 3 semaines, au bout de 5 à 6 semaines, si les symptômes persistent, si on est en échec du traitement médicamenteux, vous avez une cause mécanique à la douleur. Vous avez les nocicepteurs de votre nerf qui sont trop stimulés par le morceau de disque. Vous retirez le morceau de disque et cette sciatique aiguë, elle est soulagée et vous ne l'avez plus. Si malheureusement, le conflit persiste et il dure pendant des mois et des mois, ou si au cours d'une opération, il a été très difficile d'accéder au morceau de disque et qu'il a fallu récliner beaucoup la racine, eh bien, au bout d'un certain moment, l'organisme développe une façon différente de traiter le message de la douleur. Et ce n'est plus une douleur mécanique qui va vous pourrir la vie à ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler une douleur neuropathique. Alors, douleur neuropathique, qu'est-ce que ça veut dire ? La douleur neuropathique, c'est une douleur qui est liée à une lésion du système nerveux. C'est-à-dire une racine qui a été coincée, abîmée, écrasée, comprimée par un morceau de disque ou une manœuvre de rétraction après une ou plusieurs opérations. Et quand ça se produit, ce nerf qui devient malade, il va commencer à bombarder le cerveau de messagers chimiques tout au long de la suite et tout au long de l'existence et faire en sorte qu'il va y avoir une autonomisation du message douloureux qui va évoluer après pour son propre compte. C'est-à-dire que vous pourrez être allongé au milieu de votre lit, alors qu'à une certaine époque, vous aviez une sciatique et que quand vous allongiez, ça allait mieux. Et bien là, malgré une, deux ou trois opérations, et bien vous allez être au fond de votre lit, au milieu de la nuit, et vous allez avoir des sensations qui vont vous réveiller, qui sont d'un tout autre ordre que la douleur mécanique que vous aviez au début. Ces douleurs-là, ce sont des douleurs de type brûlure, de type fourmillement, de type coup d'aiguille, étau. Ça serre, ça pique, ça broie, ça tire. Et ces douleurs-là, malheureusement, c'est des douleurs qui vont devenir extrêmement difficiles à traiter parce qu'il ne suffira plus de retirer le petit morceau de disque qui abîmait la racine ou qui l'a comprimé. Ce n'est plus la peine de le faire à ce moment-là. Le nerf est malade. Vous aurez une douleur qui, malheureusement, devrait vous gâcher le restant de votre existence. Et vous arrivez à un stade de douleur chronique et de douleur neuropathique. Donc toute la question, c'est à ce moment-là, qui faut-il aller voir ? Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup insisté chacun à tour de rôle, mais je crois que c'est vraiment le message de la soirée. Un seul patient peut être amené au cours de son existence à développer des petites douleurs mécaniques sur une fracture qui va consolider ou une sciatique qui va guérir parce qu'elle va être opérée. Ce même patient, 10 ans après, vous pourrez le retrouver ayant perdu son travail, ne sortant plus le week-end, refusant les invitations, bourré de morphine qui ne marche pas. Et ce même patient-là, 10 ans après, il aura eu un parcours qui l'aura amené à rencontrer bon nombre d'interlocuteurs. Et c'est pour ça que c'est très important que face à vous, ce soir, vous ayez un panel d'interlocuteurs qui, à chaque moment de la même maladie, mais qui évolue chez un patient, eh ben, puisse intervenir avec ses compétences. Géraldine, pour mettre l'aiguille au bon endroit quand elle infiltre. Le professeur Price, pour réussir à un moment donné à décomprimer le nerf quand il est coincé et qu'il faut avoir recours à la chirurgie. Martine, quand la première fois que le patient a l'imbago aigu, eh bien, c'est peut-être même elle qui a le rôle le plus important, elle va guérir rapidement ce patient, elle va l'orienter rapidement. Et c'est le fait d'orienter et de traiter rapidement la cause de la douleur qui va éviter à un patient de garder une stimulation de son nerf chronique qui va engendrer après des douleurs dont on ne se débarrassera plus. Après, toute la stratégie chirurgicale ou la stratégie de prise en charge, elle reposera sur le fait d'essayer de masquer le plus possible les douleurs qu'un patient a sans pouvoir plus les guérir. C'est-à-dire qu'on apprendra à un patient à vivre mieux avec ses douleurs, on lui apprendra à moins souffrir, on cherchera dans notre trousse à outils tout ce qu'on pourra utiliser comme outil pour lui améliorer sa qualité de vie, mais on ne pourra plus le guérir de ses douleurs. On arrive à un stade palliatif. Ce sont les douleurs chroniques post-opératoires. Donc dans cette prise en charge, et je vais être assez rapide parce que vous allez tous devenir affamés là, si on continue comme ça pendant des heures.
Oui, et puis on va donner la parole, docteur, je me permets. Ils sont impatients de vous poser plein de questions. Donc
d'accord.
Merci de faire très rapide.
Je vais faire très vite. Vous me laissez 7-8 minutes encore ? Ça va aller ? 7-8 minutes ? Bon, eh ben écoutez, on peut aller très très vite. Hein. Je vais résumer mes messages. Je vais résumer mes messages. La première chose, c'est que face à un patient qui a une problématique qui devient très compliquée, la première question qu'il faut se poser, c'est savoir s'il faut oui ou non le réopérer de la colonne encore une fois pour essayer de traiter un conflit ou une problématique qui n'avait pas été réglée avant. La deuxième chose qui est très importante, c'est que quand le patient ne sera plus candidat à une opération, on franchit une barrière sur laquelle on ne reviendra jamais, il ne faudra plus jamais lui proposer une nouvelle opération de la colonne, eh bien, l'important pour lui, ce sera d'accéder au centre antidouleur où vous aurez un médecin spécialiste de la douleur, un psychiatre et un chirurgien de la douleur qui vont essayer de trouver des solutions pour essayer de combattre le message douloureux persistant. Et c'est à ce moment-là que peut éventuellement, pour certains patients, et une petite partie de ces patients seulement, c'est à ce moment-là que peut se poser la problématique éventuellement de ce qu'on appelle la neurostimulation. Mais j'ai l'impression qu'on en discutera un autre soir. Simplement pour vous dire que... Simplement pour vous dire que face à un patient finalement pour lequel à un moment donné pouvait se poser la question de corriger une grosse déformation de la colonne en mettant des vis et en remettant l'anatomie à la normale, eh bien chez ce patient-là, au bout du compte, après avoir réfléchi à plusieurs, pendant plusieurs années, on peut à un moment donné, sur ce symptôme douloureux persistant, se poser la question de utiliser la technique qu'on appelle la neurostimulation pour essayer de masquer son message douloureux. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est faire exactement la même chose que quand on se frotte le pouce et puis qu'on essaye, ou de souffler dessus, qu'on essaie de faire rentrer en compétition un message bienfaisant qui va combattre le message et la transmission du message douloureux. C'est le grand principe de la neurostimulation. Et c'est pour ça que nos patients, en général, chez le rhumatologue ou chez le kiné, ils essayent la TENS, la stimulation électrique transcutanée, on colle des pastilles sur la peau, on relie ces pastilles avec des câbles et un boîtier externe et on envoie un courant sur le territoire douloureux, de la jambe ou du dos, pour que ce courant prenne la place de la douleur comme quelqu'un qui se frotterait le pouce douloureux, mais en permanence. Et quand cette TENS marche bien et qu'on a une efficacité de la stimulation externe, malheureusement, la plupart des patients ressentent beaucoup de désagréments. Parce que vous ne pouvez pas prendre votre douche avec des câbles qui pendouillent et puis des pastilles qui sont collées. Il faut les coller, les décoller, les recoller tous les jours, plusieurs fois par jour. Quand vous êtes caissière ou vous êtes serveuse dans un bar, ben ce n'est pas très pratique d'avoir le plateau à la main avec les câbles qui pendouillent, etc., etc. Donc, quand un patient reçoit un bénéfice important de la technique de neurostimulation externe, mais qu'il en subit malheureusement les contraintes, eh bien l'idée, c'est d'utiliser cette arme thérapeutique qu'est la neurostimulation, mais cette fois implantée à l'intérieur de son organisme, pour que cette stimulation aille stimuler directement, non plus un petit nerf perdu au hasard entre des lobules de graisse ou de la peau ou du muscle au niveau de la cuisse, mais le but c'est d'aller stimuler directement son système nerveux. C'est pour ça que l'électrode que vous voyez ici, on la met dans son canal, en regard de sa moelle épinière, pour aller stimuler directement les fibres à gros débit. C'est comme si on parlait des canalisations France Télécom. Au lieu d'aller stimuler une petite fibre chez un particulier, on va stimuler la grosse gaine dans laquelle il y a toutes les grosses fibres qui vont à la centrale. La centrale, c'est le cerveau qui est juste au-dessus de la moelle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une technique d'implantation d'électrodes et que, avec cette électrode en place, générant un courant électrique directement au contact de la moelle épinière et des gaines électriques qui vont être le dernier relais, le dernier intermédiaire avant le cerveau, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à brouiller les cartes et à brouiller le message nerveux. On utilise un filtre qui va parasiter la transmission de la douleur de jambe jusqu'au cerveau. Nous, on va utiliser un court-circuit à cet endroit-là par un champ électrique qui va filtrer le message de la douleur pour l'atténuer et aider le patient à mieux vivre avec ses douleurs en ressentant une sensation bienfaisante qui va, on l'espère, remplacer non pas toute la douleur, mais une partie de ces douleurs. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là parce que...
Alors, écoutez, le principe de ce rendez-vous, je dis ça pour ceux qui disent non, le principe, c'est qu'il y a un échange au départ. Donc, maintenant, on peut avoir deux options. Soit vous pouvez continuer, il n'y aura pas d'échange après. C'est comme vous voulez. On a le temps, il nous reste encore 20 minutes. Donc, c'est comme vous voulez. Donc vous pouvez continuer si vous voulez, docteur, et puis on fera les 10 dernières minutes en question.
C'est comme vous voulez. Vous voulez qu'on fasse un petit vote à bras levé ou qu'on voit si les gens sont...
Non, on va prendre la décision. Donc je vais vous laisser continuer, puis on fera 10 minutes de questions à la fin.
Allez, j'essaie de faire vite. La stimulation médulaire, le fait d'implanter une électrode au contact du système nerveux, je voulais vous montrer un petit exemple. C'est un exemple qui est d'un reportage qui a été fait dans le service. Il dure 2 minutes, cet exemple. Et il résume très bien la situation. Une fois encore, c'est très important avant que je lance que vous compreniez qu'un patient qui a mal au dos n'est pas un patient qu'on va implanter d'une stimulation. D'accord ? Un patient qui a mal au dos, il passe dans les bras de tous ses intervenants on essaie de tout faire pour éviter d'arriver à une situation dans laquelle il va malheureusement être en bout de course, en impasse thérapeutique, qu'il n'y aura plus d'alternative, qui dira c'est ça ou moi, de toute façon, on a des patients qui disent c'est ça ou moi, je me flingue. C'est-à-dire que la douleur devient tellement insupportable, pourrit tellement l'existence du patient, de son entourage. Il ne peut plus soulever ses enfants, il ne peut plus sortir le week-end, il est sous morphine, il ne peut plus conduire, il a beaucoup d'effets secondaires de tout ça. Et bien à ce moment-là, effectivement, en dernier recours, on peut être amené à utiliser des techniques de stimulation médullaire. Donc ce petit reportage de 2 minutes, il vous présente un petit peu le parcours d'un ou deux patients qui ont eu cette implantation d'électrodes une fois qu'on avait fait une évaluation multidisciplinaire dans un centre antidouleur avec un psychiatre, un médecin de la douleur, un chirurgien, et qu'on avait essayé de passer en revue tout ce qu'il était possible de faire avant. Voilà.
C'est une toute nouvelle technologie et un espoir dans la lutte contre la douleur. La neurostimulation est actuellement testée avec succès au CHU de Poitiers. Elle s'adresse aux patients qui souffrent de douleurs chroniques du dos et des jambes et pour lesquels aucun traitement n'a jusqu'ici fonctionné. Reportage de Viviane Jungfer et Anaïs Barth.
Seconde et dernière phase d'implantation pour ce patient qui vient de tester avec succès pendant une semaine les toutes nouvelles électrodes.
Donc vous voyez ici la colonne du patient avec ses côtes. Et on a implanté l'électrode en regard de la région de la moelle qui centralise les influx douloureux des jambes et du dos.
Et pour alimenter en énergie ces électrodes situées en haut, on va implanter dans le bas du dos un petit boîtier, un stimulateur de dernière génération qui capte et s'adapte automatiquement à tous les mouvements du corps.
Donc on va faire la connexion de l'extension avec le stimulateur.
Quand le patient s'allonge sur le dos, eh bien le stimulateur, lui, il adapte automatiquement le changement de position en changeant de programme et en modulant l'intensité de stimulation. Ce stimulateur, il a une durée de vie de 9 ans et en fonction de la consommation énergétique du patient, il peut être amené à le recharger plus ou moins fréquemment.
Cette patiente est l'une des premières à avoir été implantée au CHU de Poitiers il y a plus d'un an. Aujourd'hui, grâce à cette neurostimulation, elle peut remarcher, travailler et conduire quasi normalement.
Les douleurs n'ont pas disparu, elles sont masquées par le neurostimulateur qui crée un leurre vis-à-vis du cerveau et de mes nerfs. Je dis que ça me fait comme un bercement d'ondes qui m'enveloppe toutes les jambes et jusqu'au milieu du dos. Et ça me fait un effet très, très bienfaisant, très agréable.
La stimulation médullaire s'adresse à des patients très ciblés, aux douleurs neuropathiques chroniques des jambes et du dos, chez qui tout traitement a échoué. Le mieux-être est quasi instantané.
Plus aucune douleur. Le sourire, c'est que du bonheur pour moi, voilà.
Ce programme européen de recherche est testé dans 8 hôpitaux, dont le CHU de Poitiers pour la France.
Alors, c'était pas tout à fait exact. En fait, la stimulation médullaire, elle est faite dans tous les CHU en France. Là, c'était juste le fait que le boîtier soit rechargeable et le fait qu'on utilise des électrodes un peu particulières à Poitiers. C'est ce fait-là qui était souligné, mais la stimulation médullaire, il y en a partout en France. C'est une technique qui est faite dans tous les centres antidouleurs en France. Donc, l'idée, pour faire très simple, c'est qu'avec des électrodes très compliquées, on arrive aujourd'hui, ce qu'on n'arrivait pas à faire il y a 5 ans, à essayer de stimuler une sciatique douloureuse et de remplacer le message douloureux au niveau de la jambe avec un premier programme et d'utiliser de nombreux contacts de cette électrode pour faire des programmes plus compliqués et à partir d'une stimulation qui va bien couvrir la sciatique, essayer de remonter dans le dos et faire exactement comme quand le patient mettait sa tense dans le dos, générer des fourmillements dans le dos qui vont remplacer la douleur. Mais avec ces électrodes-là, qu'on implante au niveau de la moelle épinière, on ne peut pas stimuler le dos sans stimuler les jambes. Pourtant, vous avez des patients qui ont des douleurs du dos, mais qui n'ont pas de sciatique. Donc c'est pour ces patients-là, que vous ayez juste un balayage complet des différentes techniques qu'on peut proposer, on utilise à ce moment-là la stimulation sous-cutanée, c'est-à-dire le fait de mettre ces mêmes électrodes, mais au lieu de les mettre dans le canal rachidien, au contact de la moelle épinière, pour stimuler d'abord les jambes, puis le dos, eh ben, on met ces électrodes à ce moment-là sous la peau des endroits qui sont douloureux et sur lesquels une stimulation externe fonctionnait très bien. Donc je vous montre juste 2 exemples. Ce patient-là qui était un patient qui avait des douleurs intercostales, des douleurs qui étaient liées à un zona, donc c'était une pathologie qui vraiment lui donnait des douleurs réfractaires à tout et en bande comme ça sur le thorax et le tronc et qui englobait la colonne. Et ben ce patient-là, on lui avait mis une TENS, c'est-à-dire un stimulateur externe qui marchait très bien, Et étant donné qu'il en subissait beaucoup de contraintes et qu'il voulait absolument un soulagement permanent, dans un cadre réfractaire, sous morphine, en étant au bout du rouleau, etc., etc., eh bien, on lui a implanté des électrodes. Vous avez l'impression qu'elles sont au regard des poumons, mais en fait, elles sont tout autour. Il y en a une là, de chaque côté. Et on fait passer un courant électrique entre les deux sous la peau qui va remplacer sa douleur intercostale de zona. Le dernier exemple, c'est une patiente qui a, malgré un montage important, des douleurs au niveau de la colonne qui sont très, très localisées. Elle a juste deux points douloureux très importants. Elle est allée voir quelqu'un comme Madame Durand. Elle a eu des infiltrations, elle a eu des rhizolies, c'est-à-dire des destructions du nerf. Elle a eu de multiples procédures, de multiples traitements médicamenteux qui n'ont pas permis à ces deux points douloureux d'être soulagés. Et puis un jour, on lui a mis la TENS, ces électrodes externes, et elle a dit, mais la TENS me diminue de plus de 50% mes douleurs. Mais au bout du compte, effectivement, j'ai quand même les inconvénients de la TENS le soir, le matin, etc. Ça se décolle, ça ne marche pas. Eh bien, cette patiente-là, exactement à l'endroit où la TENS marchait, on met des électrodes sous la peau et on obtient une espèce de stimulation qui d'externe passe à interne et couvre la peau douloureuse du dos sans cette fois stimuler et générer des fourmis bienfaisantes certes, mais dans les jambes, puisque cette patiente n'en a pas besoin, elle a mal que dans le dos, elle n'a pas mal dans les jambes. Voilà, donc si vous voulez en résumer de façon très simple, pour un patient qui a mal dans les jambes et dans le dos, nous, on a dans notre trousse à outils différentes électrodes qui peuvent essayer de diminuer et de couvrir la douleur du dos et des jambes. Si un patient a mal uniquement dans le dos, dans le cadre de lombalgie réfractaire à tout, est déjà opéré, hein, je le répète, eh bien on a comme arme thérapeutique la stimulation sous-cutanée. Et ensuite, il y a des techniques, là encore, qui peuvent être discutées et qui sont des techniques de dernier recours quand la stimulation ne marche pas. En conclusion, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la première chose, s'assurer qu'il n'y a pas une cause mécanique à traiter quand un patient a mal. Et si c'est le cas, essayer de mettre en place des médicaments, puis des infiltrations ou des stratégies de traitement médicamenteux pour que ça passe. Si ça ne marche pas et qu'on a une cause mécanique, à ce moment-là, et une bonne concordance, M. Price a insisté là-dessus, il avait tout à fait raison, il ne faut pas opérer la hernie qui est au mauvais étage, ça ne sert à rien, tout le monde est malheureux à la fin. Eh bien, s'il y a une bonne concordance et qu'on est sur une cause mécanique, essayez de traiter la douleur le plus tôt possible. Et c'est pour ça que le rôle des généralistes est très important, parce qu'ils doivent être sensibilisés, autant que nous ce soir, à la douleur, pour la combattre le plus vite possible, pour éviter à tout prix qu'elle s'enquiste et qu'elle se chronicise. Donc, à un moment donné, malheureusement, si on est en échec, il faut comprendre que de multiplier les interventions, ça ne réglera plus le problème. On est sur ces douleurs dont je vous ai parlé, ces brûlures, ces douleurs neuropathiques qui ne seront plus sensibles ou accessibles à un nouveau traitement, à une nouvelle opération du dos au sens mécanique, au sens décompression ou stabilisation. Et à ce moment-là, il faut avoir recours à des structures spécialisées de type centre antidouleur pour optimiser tout ce qu'on pourra optimiser et essayer de redonner de la qualité de vie. Si cela ne marche pas, on arrive à la dernière étape du parcours au niveau de ce qu'on peut nous proposer aux patients. Ce sont les armes de la neurostimulation que je vous ai présentées en quelques minutes, mais qui, une fois encore, sont réservées à des cas réfractaires à tout. Et ce sont des stimulations un peu de la dernière chance quand on ne peut plus rien proposer d'autre à ces patients-là. En tous les cas, vous voyez ce soir qu'à travers les différents intervenants qui se sont succédés, on a tous nos propres compétences, on a tous nos trousses à outils, mais qu'il ne faut jamais abandonner parce que notre complémentarité fait qu'à tout moment, pour un patient qui a une douleur tout au long de son parcours, le plus important, c'est qu'il y ait une filière de soins, qu'il y ait un continuum d'intervenants sur le plan médical qui puisse l'accompagner et trouver des solutions là où certains pourraient s'arrêter. Et c'est vraiment cette complémentarité qui fait notre force. C'est vraiment dans cet esprit qu'on a construit l'unité du rachis neurostimulation à Poitiers, où on collabore sur le plan chirurgical, les orthopédistes d'un côté, les neurochirurgiens de l'autre, en interaction avec des gens comme Madame Bataille, avec qui on fait des consultations multidisciplinaires, des services de rhumatologie comme Géraldine à l'hôpital, les kinésithérapeutes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à mieux combattre les douleurs qui peuvent vous empoisonner la vie. Voilà, merci beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup. Merci. Bon, ça va? Alors, elle a été long, effectivement, par rapport à d'habitude, puisque je vous rappelle, le principe, c'est vraiment des interventions très courtes et ensuite des échanges. On a changé un petit peu aujourd'hui parce qu'il y avait des choses importantes. En plus, je pense que vous avez eu, du coup, des réponses à vos questions. On va se donner une petite dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Évidemment, vous n'hésitez pas à lever la main. Je vais arriver, je vous tends le micro.
Oui, bonjour. Je voulais juste avoir votre avis sur les médecines alternatives, notamment dans l'ostéopathie dont vous avez parlé. Parce qu'il me semble que ce traitement n'a jamais montré un effet plus qu'un effet contextuel, c'est-à-dire d'aller mieux en voyant son médecin, enfin ou son thérapeute. Et aussi à propos de l'acupuncture, puisque je crois qu'il y a un centre d'acupuncture qui a été ouvert à l'hôpital de Poitiers. Je voulais avoir votre avis là-dessus.
Dans les médecines alternatives, déjà, c'est assez vaste. Hein. On peut englober, alors je vous ai parlé de l'ostéopathie, parce que finalement, c'est peut-être ce à quoi on a le plus recours dans un épisode aigu. Il n'y a pas, en termes d'études, c'est vrai qu'on est un peu limité sur les études. Ce qu'on peut dire, c'est que on aime bien quand on valide une prescription qui est derrière un certain nombre d'études qui permettent de dire, oui, ça va améliorer ou pas. Après, je pense que quand on a fait un... Si vous parliez de l'acupuncture, par exemple, quand on a fait un bilan avant et qu'on est vraiment dans le cadre d'une douleur et qu'il y a un problème mécanique, qu'on a écarté toute autre chose, pourquoi pas essayer ce type de technique ? Après, s'il y a un bénéfice, voilà, pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas d'avis plus tranché là-dessus, en sachant qu'il faut vite savoir s'arrêter quand il n'y a aucun effet.
Merci. Question suivante. Qui vous levez la main ? Qui a d'autres questions à poser ?
Oui, bonsoir. Quand vous parlez de ne pas se reposer, qu'il faut tout de suite s'activer, reprendre le travail éventuellement, je ne sais pas si vous, individuellement, vous avez eu mal au dos, mais vraiment, c'est très dur et c'est très douloureux. Enfin, ça prend la tête, ça prend... toute la vie, et c'est très dur ce que vous dites quand vous dites allez, reprenez votre travail debout, il faut pas se reposer. C'est vrai qu'il y a 20 ans c'était ça, c'était le repos, c'était long, mais c'est pas forcément possible ce que vous recommandez.
Non, j'ai pas dit reprenez le travail, j'ai dit reprenez une activité. Je me suis corrigé, j'ai dit que l'objectif c'était de donner aux gens la possibilité de le reprendre. Mais ce n'est pas un ordre, c'est un objectif thérapeutique, forcément. Après, Philippe a insisté sur un point qui est la réponse à votre question. Je parlais des cas assez simples où il y a un problème mécanique qui n'évolue pas depuis des années. On sait de toute façon, et ça par contre malheureusement c'est des chiffres, que si on a arrêté ses activités depuis un an ou plus, on ne les reprendra jamais. Moi je parlais des cas idéaux, pour la chirurgie de correction, c'est-à-dire qu'on a mal depuis quelques semaines ou quelques mois, les muscles n'ont pas eu le temps de fondre, l'état général est bon, là, l'objectif, c'est de reprendre vite. Après, comme a dit Philippe, s'il y a une sciatique qui durait depuis des années, c'est plus du tout la même chose. Moi, je parlais du cas de figure un peu idéal pour schématiser, sachant que Philippe allait parler de ses douleurs chroniques. Si une douleur est chronicisée depuis plus d'un an, c'est évident qu'on n'y pense même pas à la reprise du travail. C'est même pas envisageable.
Il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on est dans un système de médecine occidentale. C'est-à-dire, on ne raisonne que par la preuve médicale. On a besoin de publications et de papiers pour baser notre pratique. Et c'est une certaine vision des choses qui correspond à une réalité, mais pas forcément à la réalité. C'est pour ça que, pour rebondir sur la première question qui était extrêmement intéressante, je ne vois pas pourquoi l'acupuncture ne serait pas une idée à développer pour des malades pour lesquels il n'y a pas de ressources thérapeutiques et pour lesquels notre système de pensée occidentale et médicale n'amène pas de solution. L'ostéopathie, c'est pareil. Quand vous allez mener votre voiture chez un garagiste, vous savez très bien que vous avez les cons et puis les bons. Et c'est très cru ce que je dis, mais la vraie problématique, elle est à la notion de compétence. Cette semaine, en stage avec moi, j'ai une jeune étudiante qui est en fin de formation de chiropraxie. Moi, la chiropraxie, il y a quelques années, je ne savais pas ce que c'était. On disait que c'était des vaudous, que c'était très dangereux, qu'ils manipulaient, qu'il y avait des paralysés, etc., etc. Moi, j'ai face à moi une étudiante qui a fait 6 années d'études, qui lit les IRM comme je les lis, et je l'ai vérifié en consultation cette semaine avec elle. Et je crois que si vous avez quelqu'un qui connaît bien l'anatomie, qui est compétent, s'il a un savoir-faire qui peut vous aider à un moment donné, il ne faut pas l'occulter. Surtout quand on avance dans le parcours médical et qu'on a de moins en moins de solutions. Maintenant, par rapport à tout ça, on est en train de parler de conviction. Nous, en Europe, on a besoin de rationnel, c'est-à-dire d'études scientifiques qui basent notre pratique. Parce que sinon, tout le monde peut demander 500 euros à un patient, faire bouger un pendule et puis dire que demain, ça ira mieux. Et là, on arrive aux limites du raisonnable. Le raisonnable et le rationnel en ce qui concerne le repos, il est très simple. Il y a une conférence de consensus et une analyse par un groupe d'experts au niveau français qui a regardé dans toutes les études qui ont été publiées sur des dizaines de milliers de patients si oui ou non tel ou tel traitement était efficace, pas efficace et si la preuve de l'efficacité était grande ou pas grande. Et ce qu'il ressort de cette analyse est très clair, c'est que le repos n'a jamais démontré d'efficacité dans le traitement de la lombalgie. Ce qui veut dire que, pour nous, il vaut mieux reconditionner rapidement un patient qui souffre au niveau du dos, jouer sur sa musculature, jouer sur la façon dont on peut centraliser sa douleur avec des collègues et amis qui font de la kinésithérapie de McKenzie, donner un traitement antalgique adapté pour décontracturer le dos, pour que le patient reprenne le plus vite, lorsqu'il a un lumbago aigu, une activité. Et c'est vraiment le but de cette démarche qui nous dit attention, le but, c'est pas de s'allonger pendant 2 mois ou 5 mois pour voir si ça va passer ou pas, parce que on parlait de ce qui se passait il y a 20 ans où on observait des périodes de repos beaucoup plus importantes. Mais les patients qui étaient traités comme ça ne vont pas mieux. Et c'est ça qui a été observé par des groupes d'experts et sur des études. Voilà pourquoi on, aujourd'hui, le repos n'est pas recommandé.
Merci, docteur. D'autres questions ? Au fond, je vais y aller. Juste avant qu'on vous donne le micro, une question par écrit. Un enfant de 7 ans amorce une scoliose au niveau lombaire, visible sur les radios. Peut-il potentiellement retrouver une colonne droite et par quel moyen ?
Alors là, la réponse est simple.
Professeur, bien devant le micro, s'il vous plaît.
Pardon, oui. Donc la réponse est assez simple. 7 ans, c'est très jeune. C'est donc une scoliose infantile qu'il faut avant tout surveiller. L'objectif du traitement, c'est que la croissance se finisse avec l'angulation de début. Autrement dit, si à 7 ans, il a une angulation de 10 degrés, le traitement aura pour but qu'il finisse sa croissance à 10 degrés, sachant qu'avec une scoliose de 25 degrés, c'est le seuil de gravité, on vit strictement, normalement, et qu'il n'y a strictement rien à faire à l'âge adulte. Donc, surveiller sur un an tous les 6 mois l'évolution, ne traiter qu'au-delà de 25 degrés et viser, si on doit traiter, d'obtenir le résultat qu'on avait au début du traitement.
Merci. Madame.
Moi, je voudrais savoir, s'il vous plaît, comment se fabrique une hernie ? Moi, je connais quelqu'un qui a eu 2 hernies qui comprimaient la moelle épinière au niveau des cervicales. Comment se fabrique cette hernie ? Est-ce qu'il y a des postures à éviter ? Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils par rapport à ça ?
Merci. Moi, je vais vous expliquer en quelques mots, si je peux, la hernie. Et puis, pour les conseils, on va demander au docteur Durand et puis au docteur Bataille. Le disque, c'est comme une pêche. Je reprends toujours cet exemple quand on donne un cours. La pêche, elle a un noyau, elle a une consistance, une chair, elle a une écorce. Si la pêche est mal hydratée, vous le voyez bien quand vous vous baladez dans des vergers, eh bien elle flétrit et puis elle tombe de l'arbre, elle est plus fragile. Et ce qui se passe avec l'histoire naturelle d'une pêche mal hydratée, c'est exactement la même chose avec un disque. Le disque, il a un noyau, il a une chair qui est pulpeuse et il a une écorce qui sont des ligaments autour qu'il contiennent. Si à un moment donné, on a un problème d'hydratation par rapport à ce disque, l'écorce va se fragiliser, c'est le ligament. La chair va être flétrie et déshydratée et elle va laisser sa place au noyau qui, sous pression, à un moment donné, au cours d'un éternuement, au cours d'une poussée abdominale, quelle qu'elle soit, eh bien va donner plus de chances que le noyau de la pêche puisse s'extravaser, c'est-à-dire sortir au-delà de l'écorce et aller là où il ne faut pas, c'est-à-dire au contact des racines nerveuses. Voilà un petit peu le mécanisme schématisé et caricatural, mais de la hernie discale, en fait. Donc, c'est un problème, finalement, d'hydratation du disque. Alors, par rapport à ce qu'il faut faire ou pas faire, on peut peut-être demander à Géraldine des conseils.
Par rapport à ces problèmes, en fait, ça bouge, en fait, le disque, quand vous bougez. C'est toute une mécanique, c'est-à-dire quand vous allez vous pencher, par exemple, en avant, vous allez avoir votre disque qui va plutôt partir vers l'arrière, schématiquement. Donc ça se corrige très bien quand vous avez justement une bonne hydratation au niveau de votre, votre disque, eh bien, comme ça rentre, ça va ressortir, ça rentre et ça sort. À partir du moment où vous penchez en avant, quand vous relevez, le disque reprend sa place. Quand il est un petit peu plus déshydraté, bah, il ne va pas forcément en garder cette place. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à corriger au quotidien ce qui va pouvoir entretenir ça. Au quotidien, on est très souvent plutôt projeté vers l'avant. Dès que vous allez vouloir ramasser quelque chose, bah, vous allez vous pencher. Et en fait, vous allez faire travailler toujours dans le même sens en fait, au niveau de votre dos et toujours faire travailler ces disques vers l'arrière. Donc l'idée, c'est d'arriver à corriger ça. Donc il y a notamment quand vous allez pencher pour ramasser quelque chose, il faut éviter tout mouvement en flexion un petit peu trop brutal. Ou c'est d'ailleurs, vous avez peut-être fait l'expérience, c'est comme ça qu'il y a un épisode de blocage aigu, c'est quand on se penche en avant et qu'on essaye de se relever. Et là, il y a un blocage. Donc il faut plutôt faire travailler au niveau des jambes. Donc se pencher, c'est les jambes qui doivent travailler et pas la colonne, pas le dos. Et quand on est assis, bon, vous êtes assis là déjà depuis un peu plus d'une heure, deux heures presque, tout le monde a un peu tendance, on dit toujours aux enfants, il faut se tenir droit, tiens-toi droit, donc il faut se relever. Mais spontanément, on a tendance à s'affaisser, donc reprendre un peu cette position, un peu de se courber en fait. Et donc ça, ça va solliciter, ça va favoriser aussi, peut-être après sur des longs termes, des problèmes de hernie qui vont sortir, une discopathie, une petite protrusion, va devenir un disque à un moment où vous allez faire un mouvement un peu trop. Donc après, bah, y a bien corriger quand vous êtes assis. Il y a dans les voitures maintenant, vous avez des coussins qui sont faits exprès justement pour bien s'installer au fond d'un siège. Bien caler votre dos pour justement éviter de reprendre cette courbure qui peut être néfaste.
Je rebondis sur la question des postures. Ceux d'entre nous qui sont moins jeunes se rappellent très bien que les vieux pupitres d'école comportaient un plan incliné à 45 degrés. C'était excellent, à la fois pour le dos, pour les cervicales et pour tout. Ça évitait de s'avachir en avant. Ça, c'est des moyens simples. Après, il y a tout un rôle d'apprentissage des postures. On a ici un kiné ergothérapeute, d'apprentissage des gestes professionnels. Mais ça nécessite la participation du patient. Ce n'est pas un truc tout cuit qui tombe du ciel. C'est un entretien permanent de ses postures en cherchant à préserver son dos.
Les quatre dernières questions. D'abord, la maladie rachis génétique existe-t-elle? Première question.
Alors, si on fait allusion aux déformations de l'enfant et de l'adolescent, ce qu'on appelle la scoliose, il y a une composante génétique, oui, mais ce n'est pas une cause, c'est multifactoriel, génétique, mécanique, neurologique, la scoliose est une maladie neurologique, etc. Donc la génétique joue un rôle, les Anglais ont identifié 6 ou 7 gènes particuliers chez les enfants, les adolescents et les adultes qui ont des déformations de la colonne qui évolue.
Merci. Alors, qui avait une question, madame, en orange? On arrive avec le micro, ne vous inquiétez pas.
Bonjour, toujours par rapport aux scolioses, quelle réponse on peut apporter à une patiente de 20 ans qui a été traitée pour une scoliose avec un corset pendant plus de 2 ans et qui a toujours des douleurs récurrentes? Assez supportable, mais toujours...
Alors, certes, chaque cas est particulier, c'est une maladie très individuelle. Et donc, c'est difficile de donner un avis. Les douleurs ne font pas partie du tableau de la scoliose de l'adolescent. Elles sont acquises pendant la croissance, en dessous, le plus souvent, de la partie tordue. Donc, malheureusement, là, je ne peux pas répondre sans voir le cas plus précisément, parce que je m'embarquerai dans des considérations qui seraient beaucoup trop longues. Mais il y a toujours une solution pour les douleurs de l'adulte scoliotique qui ne sont pas dues à la scoliose. Mais il y a toujours une solution qui passe en premier lieu par le reconditionnement musculaire.
Merci. On nous demande des explications sur l'algoneurodystrophie.
C'est pas une pathologie qui est au niveau rachidien, en fait. C'est plutôt pour les articulations périphériques. Donc, ça sera peut-être un petit peu compliqué de répondre là à la question. En tout cas, sur l'algoneurodystrophie, c'est Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre au niveau du reste.
D'accord.
Excusez-moi, je pense que comme il y a le mot neuro, la personne qui pose la question a dû se dire neurostimulation, donc algodystrophie, je m'adresse.
Ça marche aussi, mais ce sera un sujet pour un autre soir.
je t'ai eu là.
Les cures thermales, peuvent-elles pardon, soulager dans le cas d'arthrose, par exemple?
Oui, ça va être une question pour le médecin généraliste. Ben oui. Effectivement, en tant que médecin généraliste, j'étais amenée à prescrire pas mal de cures thermales. Les cures thermales ont un effet effectivement bénéfique sur un temps plus ou moins court. En tout cas sur la décontraction musculaire, sur le bien-être de la personne, pour sa prise en charge un petit peu globale. Je ne crois pas énormément quand même aux vertus des cures thermales. Enfin, s'il y a des médecins de cures thermales, ils vont m'assassiner tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un bien-être qui va jouer sur la composante dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il s'agit parfois de personnes effectivement, qui sont fragiles sur le plan psychologique. Et les cures thermales, ça va être une prise en charge un peu globale. Mais les cures thermales ont un effet bénéfique, mais à moyen terme, faut bien reconnaître. Voilà. Je voudrais répondre à la personne tout à l'heure là, qui a parlé effectivement qu'elle était par rapport aux hernies discales, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, par exemple à cette personne, les consultations du lundi matin, des personnes qui avaient fait leur vitre, ou de faire un mouvement répétitif sur une partie du rachis qui souffre, ça c'est quelque chose de rédhibitoire. Hein. C'est vraiment un mouvement qui va être répétitif et de longue durée. C'est vraiment ce qu'il ne faut ne pas faire.
Plus de vaisselle, plus de repassage interdit.
Non, mais pour les F, vous pouvez continuer. Hein.
C'est une bonne nouvelle que vous nous apportez là. Merci beaucoup en tout cas. Je voudrais qu'on remercie énormément les intervenants de ce soir qui ont été brillants et qui nous ont apporté plein de réponses. Je voudrais qu'on remercie aussi le CHU, l'Espace Mendès France, l'équipe technique et puis les traducteurs en langage des signes. Bien sûr, merci mesdemoiselles, mesdames. Vous aussi public, je voudrais aussi que vous pensiez bien à remplir vos fiches, s'il vous plaît, d'évaluation, à les remettre à l'accueil. Je vais vous libérer, ça fait 2 heures que vous êtes assis, comme on le disait tout à l'heure, maintenant vous pouvez vous lever. Juste vous donner une précision, le prochain pôle info santé aura lieu le 11 avril prochain. Et je sais que vous êtes pendu à mes lèvres pour avoir le thème. Le diabète. Rendez-vous le 11 avril prochain. Merci, bonne soirée.